Salut à toutes et à tous, nous sommes le 10 mai 2020 et c'est le début de la fin du déconfinement. Et même le président le dit, restez quand même prudents. Si demain McDo sera assailli, et les coiffeurs sans doute aussi, hein, attendez-vous à une deuxième vague. En attendant, vous écoutez Clat. Salut à tous, donc comme je disais c'est bientôt la fin et pour m'accompagner ce soir j'ai donc Aki Chagara, Rusher et le docteur Fontanier. Comment allez-vous?
Bonsoir.
Très bien.
Ça va bien, bonsoir
ça
à tous.
Ça a l'air d'aller. Bon alors, la première question d'intro, quelle est la première chose que vous allez faire demain?
Travailler.
Oui, il y a des choses
comme
qui ne changent
tous
pas.
Les jours.
Rapproche ton micro de ta bouche s'il te plaît Chagara.
Oui, on va travailler.
Oui, c'est ça. Exactement. Tu vas travailler, parce qu'il serait temps quand même hein, d'y retourner. toi, Rusher, tu vas faire quoi demain? Ah bah rien, en fait.
Rien du tout.
Parce que toi, t'es pas concerné.
Eh oui, je suis encore semi-confiné.
Semi-confiné. Et toi, Aki, qu'est-ce que tu vas faire demain grâce à ce déconfinement incroyable?
Rien du tout, je suis en télétravail.
Voilà, c'est merveilleux. Et toi, docteur Fontanieux, qu'est-ce que tu vas faire demain? La
Mais
même chose qu'hier,
ce que
c'est
je
ça
fais que, ce que je fais depuis le début de confinement, c'est-à-dire travailler.
Essayer de conquérir
aussi
le monde.
Voilà, c'est ça. Non, travailler, ouais. Ça change pas en fait.
Et non, mais après, figurez-vous qu'il y a des gens qui s'apprêtent à faire quand même la teuf. Les fêtes de déconfinement, je peux vous dire qu'on va en voir passer des photos ouais, un peu partout, de barbecue, de machin, de trucs. Bon, heureusement, on a de la chance, il fait mauvais. Enfin, en tout cas, ouais. Chez nous, il fait mauvais, donc du coup, ouais. Il y a des
les
chances
gens,
que dans le sud-ouest,
chez eux et il y aura voilà. Pas de distance de sécurité.
Ici, c'est pareil.
Voilà, il y a des chances quand même que dans le sud-ouest, l'épidémie ne reparte pas tout de suite, vu
c'est
qu'on
ça,
est
en
alerte
fait.
Rouge.
C'est pour ça qu'ils sont pas trop contaminés. Dans
ah bah oui, c'est ça. Il fait que pleuvoir, du coup, les gens ne sortent pas. Hey. Donc voilà, c'est la technique. On a de la chance. Il y a des masques en masse, nous dit Prozine Motion dans la chatroom. Oui. Alors, je vous avoue que bah, du coup, nous, on a des masques faits maison, hein, Chagara, que tu as fait avec amour.
Oui,
et surtout avec
oui.
La machine à coudre.
Surtout elle, ouais.
Moi, j'ai un beau masque Avenger qui fait que quand je le porte, j'ai un aigle sur la bouche. Et maintenant que j'ai le crâne rasé, on dirait un skinhead parfait, partisan du Troisième Reich. Hein. et Chagara, elle a un magnifique masque
Hulk
qui est incroyable. En attendant,
nous, on a des masques faits maison aussi, mais pas faits maison chez nous.
Pas faits maison chez vous. C'est papa-maman.
C'est la boulangère.
Ah, la boulangère.
Non, pas, c'est une couturière mais... qui les revend par la boulangère.
Ah, ouais. Le
parce
système.
Que les pharmacies n'en ont pas chez nous.
Ah, ben
alors,
c'est.
Il y en a un qui est un peu mal fait parce que. Comment dire, il tient pas bien sur la bouche.
Ah,
c'est pas grave,
c'est dommage.
On va avoir d'autres au boulot.
Est-ce, tu peux pas mettre une pince, tu sais, de pain de mie ou de trucs comme ça, là, tu sais, un truc en métal pour pincer le nez, ouais. Non, peut-être pas pince à linge, mais un petit truc en métal, tu sais, tu vois, tu mets dessus.
Ferme les sachets, là.
Ouais, ouais. Écoute, moi, je suis censé recevoir d'ici 5 jours, enfin, entre. À partir de. Dans 5 jours, je devrais recevoir normalement mon fameux masque FFP2 de la mort. Les filtres sont lavables, ils nous ont annoncé, et ils ont obtenu la certification. Les fameux masques Kloska que j'avais achetés, ils ont même obtenu une certification. Ils filtrent 98% des. Comment ça s'appelle des bactéries, virus et tout ça. Enfin bref, ils
et
dépassent.
Tu l'avais commandé où? Tu l'avais commandé où?
Sur kloska.com, je crois que c'est. C'est un masque qu'on met sur la tête, enfin sur le visage, pardon, et on a la possibilité
la tête,
de rajouter des filtres. Non, non, on a la possibilité de rajouter. Techniquement, la bouche est sur la tête. Hein. On a la possibilité de rajouter donc des filtres à l'intérieur FFP2. On les met d'accord. Ou on les met pas, hein, mais on peut les mettre. Ils en vendent 6 avec, 6 qui sont réutilisables 3 ou 5 fois, je sais plus, en les lavant. Ils donnent la procédure pour les nettoyer. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et puis c'était pas si cher. Donc bref, j'arrête pas d'en parler de ces masques parce qu'ils sont vraiment cool. Chagara
tu
devrait
pouvoir aller bosser avec.
Bah oui, exactement. Chagara, tu devrais recevoir en plus le tien personnalisé début juin. Parce que
donc si tu vas faire un barbecue ou si tu vas en boîte de nuit, tu peux les mettre quoi, c'est bien.
Exactement. Et n'empêche, filtre 98%, c'est même au-delà de la norme FFP2 qui filtre 95%.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, parce qu'il y en avait qui disaient oui, mais moi je préfère faire confiance à l'État qui me dit que 3 couches de tissu c'est suffisant pour les masques tout venant. Bah, moi je fais pas confiance à l'État, je fais confiance à une boîte qui essaie de passer les certifications européennes et qui les a eues, quoi. Donc voilà, ça fait skinhead son masque du Shield. C'est vrai, ça fait un peu skinhead. Mais écoute, comme ça au moins les mémés me feront pas chier dans les files d'attente à la poste ou tu vois. C'est pas plus mal. Eh oui. C'est pas plus mal. Bon, au sommaire de l'émission ce soir, on va avoir donc notre revue de presse, hein, partie 1, comme d'hab. Puis on aura notre Askip, on aura un Les Vrais Saches, pour mourir moins bête demain quand vous aurez attrapé le Covid. une nouvelle partie pardon, de la revue de presse. Et la Minute Aubergine, évidemment, pour terminer. D'ailleurs, elle est tellement haute ce soir qu'on a passé la chaîne Twitch en interdit au moins de 18. Hein. Donc ça déconne plus.
Spoiler, c'est pas vrai.
Spoiler, c'est pas vrai du tout, mais c'est pas grave. C'était pour faire un peu de teasing, tu sais, pour que les gens ils aillent jusqu'au bout de l'émission.
Oui, bien sûr.
Mais peut-être que non. Peut-être qu'ils se disent qu'il faut pas écouter pour leurs oreilles chastes. Tu sais pas quel est notre auditoire.
C'est vrai. Roxy Juju dirait, moi, je suis pas prêt à entendre tout. donc voilà, laissez les mémés tranquilles. Dit Roxy Juju, voilà. Enfin bref. Non, pas de confiné. On attendra évidemment. On va plutôt faire déconfiné ou déconfini. Ça sera pour dans 2 semaines. Ah oui, d'ailleurs, au passage, j'en profite pour ceux qui nous suivent en direct ou même ceux qui nous écoutent en podcast. Il n'y aura pas d'enregistrement le week-end prochain. On fera un juste après. Voilà. On s'octroie un petit week-end de repos. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Sur ce, donc, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la première partie de la revue de presse. Et Chagara, tu vas nous parler d'argent.
Ouais, d'argent, pas trop, pas tant que ça. Pas tant que ça, je vais vous parler de caprice surtout. Je vais vous parler d'un petit garçon de 5 ans qui a fait un caprice aux États-Unis. Je pense que c'est un peu trop pourri gâté, mais pas suffisamment à son goût. Parce qu'en fait, ce petit garçon était assez frustré de ne pas obtenir la voiture de ses rêves, qui est une belle Lamborghini. Et puis, bah, il s'est dit, je vais aller la chercher, hein, évidemment. Donc, il va la chercher, mais pas à pied. Parce que bon, les Lamborghini, le mieux, c'est d'aller en Californie pour en acheter. Et ce gamin, bah, il habite dans l'Utah. Donc tout de suite, voilà, c'est un peu plus complexe.
Ah bah,
donc,
c'est un périple qui n'est pas le même.
Voilà, il s'est dit, c'est pas grave, 5 ans.
Oh mon Dieu, il s'est à peine parlé que déjà il dit je veux une Lamborghini.
C'est à peu près ça. Du coup, il s'est dit, comment y aller, c'est pas compliqué, je vais prendre la voiture de papa-maman. Donc il a pris le SUV.
Alors si c'était une Tesla encore, tu mets l'adresse sur le GPS, elle te amène tout ça.
5 ans, tu touches pas les pédales.
Ben, écoute, il a trouvé une solution. Il s'est démerdé. Effectivement, c'est ce que j'ai lu dans pas mal de commentaires à cet article, mais il s'est débrouillé parce que j'ai recoupé les infos et à plusieurs endroits, il parle de ce petit garçon qui a bien traversé le policier qui l'a attrapé en
témoin. Après, j'ai vu les photos, il était grand. Hein.
Alors, ouais, il est assez grand.
Il fait plus que 5 ans, honnêtement.
Il fait plus de 5 ans. Dans un journal, d'ailleurs, ils disent que c'est sa corpulence qui lui donne un aspect un peu plus âgé.
Il avait 5 ans il y a 5 ans.
C'est vrai qu'il est un peu rebillé.
Oui, non, mais il a l'air aussi
pas
grand.
Pas de grossophobie, s'il vous plaît.
Non, mais il a l'air. Non, mais quand je dis c'est son physique, c'est pas. Il est gros. Il a l'air grand, en fait. Et si tu veux, je pense que si sa voiture. S'il a sa mère qui est petite, ou je ne sais quoi, ou même s'il avance le siège à fond, il doit pouvoir appuyer sur la pédale.
Ouais, je pense qu'il doit pouvoir se. Puis de toute façon, à mon avis, il va ruser.
Et puis il conduit debout, hein. C'est pas très grave.
Debout sans toucher les pieds. Enfin, debout,
c'est juste avec le pied droit,
pédales,
c'est des automatiques là-bas.
Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, il a réussi à s'en sortir et à aller sur l'autoroute quand même.
Ah bah oui.
Fou, à 5 ans. C'est incroyable.
Ah, mais il y en a qui ont hésité à la suite dans les idées. Hein.
Donc il a fait quand même plusieurs kilomètres. Et donc c'est un flic qui l'a trouvé sur l'autoroute. Il sinuait un petit peu en travers les voies de l'autoroute.
Bizarrement.
Au milieu des autres voitures et camions. Il n'allait pas si vite que ça. Quand il a commencé à actionner sa sirène, le petit garçon s'est quand même rabattu sur le côté.
Et, oui, ok.
Il est bavard.
Il connaît bien son code de la route, quoi.
Il doit être fan de GTA, tu sais, à 5 ans.
C'est peut-être comme ça qu'il a appris à conduire. Et donc l'agent était un peu surpris quand même en se rapprochant de pas trouver, de pas apercevoir la tête
de vrai, ouais, de pas voir de tête. Ouais.
Et comment voilà, il peut même voir le pare-brise, c'est ça qui est fou. C'est...
et donc bon, ils ont réussi voilà à reconduire cet enfant qui était voilà 3-4 km de chez lui.
On dirait qu'il a 10 ans hein, sur la photo quand même.
Il a pas fait d'accident. Et ils disent que l'enfant a été gardé par un aîné ce matin et que ouais, ce matin-là okay. Et que l'aîné s'est endormi. Et donc il s'est dit voilà, j'attrape il les clés suspendues à un crochet et je me casse.
Ah, les gens profitent.
Bon, il n'allait pas aller très loin parce qu'il avait que 3$ hein, dans son portefeuille, donc la Lamborghini était pas près de l'acheter. Il aurait pu au moins penser à prendre la carte bleue des papa-maman avant.
C'est tellement délire.
Ah non, mais à ce prix-là, tu payes même pas le porte-clé Lamborghini en fait. C'est même pas un autocollant ou même pas un morceau de peinture, tu vois. Même pas le stylo correcteur, tu sais, de peinture. T'as même pas ça à ce prix-là. Le bouchon de valve. Et je suis même pas sûr, honnêtement, un bouchon de valve de jante de Lamborghini, ça doit pas coûter 3$, à mon avis.
Mais même à 5 ans, toi, tu savais ce que c'était qu'une Lamborghini, tu
sais... enfin, je pense pas, je sais pas. Mais après, tu sais, ça dépend dans quel milieu t'es élevé. À 5 ans, il y en a qui savent ce que c'est un jeu vidéo, Mario, Zelda, tu vois. Il y en a d'autres qui, à 5 ans, savent pas, mais savent, par exemple, je sais pas, connaissent tous les fruits et légumes, ou j'en sais rien. Ah. Mais lui, peut-être que, je sais pas, dans son entourage, il avait un frère qui était passionné d'automobile, et il est tombé là aussi dedans, tu sais, souvent par mimétisme, d'ailleurs. Donc, ouais. Et alors, il a peut-être d'autres retards ailleurs, mais sur ça, non, en tout cas. Voilà, souvent c'est ça. Hein.
Ils disent quand même que quelques heures plus tard, le petit garçon a quand même réalisé son rêve. Donc je sais pas exactement comment ça s'est conclu. Non, n'allons pas jusque-là. Je sais pas si.
Tes parents lui ont offert en me disant oh, c'est pas grave, mon fils.
C'est pas grave, on te l'offre.
Ouais, il y a des chances que ça se soit passé comme ça. il a quand même réalisé donc une partie de son rêve. Hein. Il a eu le droit à un tour de voiture à bord du véhicule.
Oui, apparemment, c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a vu l'histoire en fait. Ou voilà,
oui, il a vu qu'en fait il avait fait le tour. Mais
voilà, et du coup, il lui a proposé, il dit vas-y, Lamborghini, viens avec moi. Et on...
oh là là.
Et... Par contre, il a pas laissé le volant.
Tu m'étonnes. Pourtant, il a montré qu'il savait bien conduire. Hein.
Ah, mais c'est clair. Mais Lamborghini, à un gamin de 5 ans.
Peut-être qu'il toucherait plus facilement les pédales.
C'est vrai
qu'il y a une boîte de vitesse non, sur le Lamborghini, non
peut-être ouais, pas aux États-Unis.
Ah, peut-être pas. Peut-être qu'il y a une version US. Si t'as une boîte de vitesse, mais tu peux la passer.
Bah, ouais, dire,
en fait, tu peux la passer en...
Eh ben, en automatique.
En fait, tu dois avoir les deux et ça doit être activable parce que t'as des palettes au volant.
Ah oui, d'accord. Ouais, ouais.
Pour passer les rapports. Je pense que ça dépend des modèles et ça dépend de plein de trucs. Et puis il y a plein d'options, boîte auto, pas auto et tout ça quoi. Donc ok, pas mal, pas mal. Bon, moi je vais vous parler du Covid. Évidemment.
Ah bon
bah ouais un peu. Alors c'est pas vraiment du Covid. Non, je vais pas vous parler du Covid. Je vais vous parler plutôt d'un agent de sécurité qui a été arrêté. Alors c'est un agent de sécurité au centre spatial de Kourou en Guyane. Et il a été arrêté. Il a commis un truc incroyable. Il a volé 33 000 masques chirurgicaux.
33 000.
C'est ça. Il a été arrêté donc pour le vol de 33 000 masques chirurgicaux au centre spatial guyanais donc de Kourou. Son procès a été reporté au 26 mai. Donc à l'issue de 2 jours de garde à vue, Christian Antoinette, 43 ans. A été renvoyé devant le tribunal en comparution immédiate, mais il sera jugé le 26 mai, le prévenu ayant demandé un délai pour préparer sa défense. Donc des masques chirurgicaux, hein, c'est essentiellement ça qu'il a volé. Cet agent de sécurité d'une société donc chargée du gardiennage et de la surveillance du centre spatial devra répondre de vol par ruse entre le 10 et 20 mars de 33 masques chirurgicaux. Oui, c'est vol par ruse. C'est comme ça que ça s'appelle.
Ça change quoi d'un vol pas par ruse?
Mais celui-ci, il est rusé. Hein, il est rusé.
Parce qu'il avait dit que c'était pour mon usage personnel.
Il avait un masque peut-être de renard rusé, tu sais, hop. Donc entreposé au sein d'un bâtiment de la base spatiale, a précisé donc le procureur. Donc c'était vraiment dans le centre, il a réussi à faire sortir 33 000 masques. Des centaines de masques ont été trouvés lors de la perquisition, notamment de son domicile, où il a été interpellé mardi. Au cours de l'enquête, en fait, des images de vidéosurveillance ont montré que l'agent est sorti à plusieurs reprises entre le 10 et 20 mars de la zone de surveillance où il était affecté pour se rendre dans la zone dans laquelle se trouvent entreposés les masques, a précisé le procureur. Bon, il se fait avoir par la vidéosurveillance. Il s'est dit, bon, il n'y a que moi qui la regarde.
C'est pas tant par ruse que ça, en vrai. Hein,
mais en fait,
un voleur rusé, il se fait pas choper. Hein.
Tu vas voir. Le centre spatial avait porté plainte le 23 mars après avoir constaté le vol. Un acte en 4 nuits. cette affaire met en lumière un problème de sécurité sur le site. L'homme ayant commis progressivement son vol de carton de 33 000 masques sur 4 nuits au cours desquelles il était de service, avait observé donc le procureur avant l'audience. Lors de sa garde à vue, il a avoué avoir donné des masques à des membres de sa famille et en avoir aussi revendu. Donc le parquet a requis le placement en détention provisoire de détenu jusqu'au procès. À la fin de l'audience, donc, la ruse en fait, c'est qu'il fait ça la nuit.
Ah,
oui. Bah oui, la nuit. En 4 nuits, il a sorti, tu vois. À la fin de l'audience, donc, le prévenu est revenu quand même sur ses aveux tardifs en garde à vue. Il a déclaré : je n'ai pas parlé tout de suite. C'est parce que j'avais peur de perdre mon travail. Et tout ça. Si je n'ai pas parlé tout de suite, c'est parce que j'avais peur de perdre mon travail. Bon, bref, il a perdu son travail. Spoiler alerte, il a été licencié. Donc 33 000 masques, faut le faire quand même. J'avoue, là c'est.
Pour un Américain, il est peut-être usé, oui.
C'est ça. C'est exactement ça. Bon, on va parler d'un autre vol, Jagara.
Oui, un vol de vin.
Ok.
Et c'était rusé ou pas ?
Donc c'est pas pour la même, c'est pas non. pour la même raison. C'est trois hommes rusés. Bah, pas tant que ça, non. Par contre, c'était un vol teubé.
Vous êtes. Alors, désolé, le procureur requiert une peine pour vol teubé. je pense que ça m'étonnerait qu'ils disent ça à l'audience au tribunal. Tu
vous
vois.
Êtes des voleurs et en plus, vous êtes très très bêtes.
C'est ça.
Donc, ces trois hommes, en réalité, j'ai dit qu'ils avaient volé du vin parce que c'était dans une boutique de vin, mais c'était l'argent qui était dans la boutique qui les intéressait. C'est pas loin de chez nous, hein, Pian-sur-Garonne, en Gironde. Pendant que deux d'entre eux s'occupaient du propriétaire, enfin il occupait le propriétaire, alors je pense en blabla diverses, je pense pas qu'il y avait de violence. Le troisième s'est introduit dans une pièce et il a volé, bon, pas grand chose, hein, 40 euros. Je pense qu'avec tes masques, ça allait plus loin. Mais oui. Comme c'est un vol teubé, bah, l'un des voleurs a laissé tomber son attestation de sortie à l'intérieur du magasin.
Oh mon dieu.
Et bien sûr, il y avait son nom, son adresse, tout était écrit quoi. Il a laissé un petit message au flic.
Il a volé 40 euros seulement ?
En plus, ils n'ont pas volé grand-chose, ouais.
Ça rembourse même pas le prix de l'attestation, quoi. Oh putain, entre l'encre et le papier.
Et surtout qu'à mon avis, voilà, sur l'attestation, il n'y avait pas forcément ça, la c'est... partie non, mais ça, je vais voler du vin.
Bien sûr. Mais ça,
je vais voler de l'argent.
Mais ça, c'est arrivé avant d'avoir les attestations sur smartphone.
Ou peut-être que c'est des gens qui font pas ça sur smartphone.
C'est vrai.
Et du coup, bon, bah, les militaires sont déplacés à l'adresse pour aller les appréhender. Ça a été assez facile. Ils ont été placés en garde à vue, ils seront convoqués. Alors je me demande s'il y aura aussi l'amende de non respect
du confinement. 235 euros.
Ah, oui, 235 euros.
En plus.
Je pense que si.
Le combo
ultime. Bon, tant qu'on est dans la justice, à qui, de quoi vas-tu nous parler ?
Ah, bah moi, je
parle aussi de gendarme.
Parler d'un gendarme, bah oui. Ouais.
La maréchaussée.
De motocycle qui faisait son petit tour de ronde
classique,
à Montpellier
quoi.
Au bord de la plage.
Bah oui, bah oui, parce que les plages, il faut le rappeler, sont interdites. Hein. Oui, là, les plages sont interdites. Hein.
Bah, normalement, je ne sais pas si elles vont rouvrir à partir de demain.
Non, mais... non.
Non. Peut-être en juin, mais en tout cas, ouais.
Il y aura des autorisations préfectorales, je crois, en fonction
de la taille des plages, peut-être.
Bah, je pense que sur la Méditerranée, c'est compliqué. Peut-être sur l'Atlantique, ou ça peut être plus facile, mais...
Là où personne ne va, quoi.
Je plaisante.
Dans les Landes.
Bon, vas-y, Aki. Du coup... Du il coup, fait son tour de motocyclette.
Gendarme, voilà, il fait sa ronde, il fait son taf, hein, et il aperçoit sur la plage un parasol.
Oh, ok.
Une personne sous le parasol, tranquille, en train de se.
Alors là, franchement, toi, t'es policier. Premier truc que tu fais, c'est que tu te frottes les mains en te disant, oulala, 135 euros facile. Je vais avoir mon quota pour la journée.
Du coup, le gendarme s'approche pour vous verbaliser la jeune femme, en l'occurrence, il semblerait.
Ah,
mais en fait, il s'aperçoit que c'est une poupée gonflable.
Oh non.
Eh bien, si.
Poupée gonflable qui, évidemment, bronze sur la plage, c'est bien connu.
Et est-ce qu'elle avait son attestation ?
Mais le gros troll.
Bah, je ne pense pas, vois-tu, mais...
Ah, ça aurait été tellement drôle qu'il y ait une petite attestation.
Ah oui, ça aurait été tellement parfait. Ça aurait
Et
été
du
tellement
coup,
parfait.
Voilà, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Les gendarmes ont pris ça à la rigolade, bien sûr.
Bah oui, attends, oh là là, t'as vu la vanne de Prozine ou pas, Rochard?
C'est un bon gendarme, il a pas eu peur, il s'est pas dégonflé.
Est-ce que elles, ils l'ont dégonflé?
Ah oui, c'est bonne question ça.
Je pense.
Est-ce qu'ils l'ont gardé?
Ils l'ont ramené au commissariat et ils l'ont démonté. Voilà.
Par contre, je me dis quand même qu'il y a des gens qui sont allés la placer.
Oui.
Bah,
donc eux,
ils ont réussi à pas se faire choper.
Ouais. Ils sont pas fait choper, donc ils ont pas payé l'amende. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, faudrait sortir la police scientifique et
relever les empreintes.
Relever les empreintes pour savoir.
Pour 135 euros d'amende, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment qu'on veut les occuper en ce moment parce qu'ils n'ont rien d'autre à branler. Hein.
T'empêche, ils ont dû l'attacher au sol pour pas qu'elle s'envole.
Ah oui, ils ont. Ah oui, oui. Ah, mais remarque.
Ah, mais je pense qu'ils l'ont attaché au sol, ouais.
Ils l'ont lesté un peu, ouais.
Ouais, ou alors tu l'attaches au parasol.
Ils ont bien relevé les empreintes, soi-disant, quand. Il y a eu les émeutes pendant les manifestations et qu'il y a eu quelques trucs de cassés.
À mon avis, il n'y a pas que des empreintes de récupérables, dit Minotaur.
J'ai pas osé la faire.
Il y a peut-être un peu d'ADN. C'est ça. Bon, moi, je vous parlais d'un truc. Un footballeur qui est mort depuis 2016 et qui a ressuscité.
Oui, c'est cela.
Hein? Et, mais oui, je vous jure. Après un accident de voiture survenu en République démocratique du Congo, Yannick Kamba a été déclaré mort, certificat de décès à l'appui, photographié le week-end dernier en Allemagne. Il est soupçonné avec sa femme d'escroquerie.
Ah, bizarrement.
Et oui, c'est un procès hors norme qui va se tenir un jour en Allemagne. Hein, pour l'instant, évidemment, déjà l'enquête n'est pas complètement bouclée, mais surtout avec le Covid, ça ralentit un petit peu tout ça. Donc, ils veulent essayer de démêler le vrai du faux dans cette incroyable affaire. En fait, c'est un ancien espoir du football de Bundesliga. Hein, donc, c'est vraiment la Ligue 1 allemande, quoi. Qui a été déclaré mort, en fait, en 2016 au Congo, donc son pays d'origine, et qui a refait surface en Allemagne, son pays d'accueil. Il a été formé à Schalke 04, donc un grand club allemand. Donc, Yannick Kamba a été retrouvé le week-end dernier près de Gelsenkirchen. Donc selon les informations du quotidien Bild relayé par le site d'Eurosport, l'ancien footballeur a été déclaré mort et un acte de décès a été publié. Donc après l'accident de voiture de janvier 2016, le quotidien allemand donc révèle que la femme de l'ex arrière droit qui a joué en équipe de jeunes avec Manuel Neuer et tout ça à Schalke 04, donc serait suspectée d'avoir injustement touché une assurance d'essai. Parce que l'assurance d'essai sur les comment ça s'appelle sur les joueurs de foot, ça doit être quand même quelque chose d'assez costaud, quoi. Et oui, évidemment. Donc il est réapparu d'abord en 2018. Hein. Donc âgé de 33 ans, donc Yannick Kamba travaille en tant que technicien chimiste chez un fournisseur d'énergie non loin de Gelsenkirchen, donc où il réside. En 2018, l'ex-joueur n'a pas réussi à percer en Bundesliga. L'ex-joueur qui n'a pas réussi à percer donc en Bundesliga serait présenté à l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour signifier que l'annonce de son décès était une fake news.
Ah, il s'est prématuré. C'est lui-même qui s'est dénoncé.
Voilà, mais il avait touché quand même l'assurance. Donc l'affaire n'avait pas été médiatisée à l'époque. Voilà. Ce week-end, il a été photographié dans la Ruhr et aurait levé une partie du mystère de sa disparition. Donc Yannick Kamba indique qu'il a été abandonné par des amis pendant la nuit au Congo en janvier 2016. Il aurait été laissé sans documents, argent, téléphone portable.
Assure il a eu tout ce temps pour revenir.
C'est ça, assure la procureure Annette Milgabild. C'est ça. Dans l'attente du jugement de l'ancien joueur et de sa femme, la mère de son fils âgé de 10 ans, donc, la justice allemande poursuit ses recherches. Elle se penche notamment sur le certificat de décès émis par le Congo pour savoir si celui-ci a été falsifié.
C'est un peu comme
ceci
le
dit,
monsieur qui voulait éviter son mariage.
Oui, c'est ça.
Il s'est fait kidnapper.
C'est ça, exactement.
Ceci est fréquent parce que moi j'avais un patient qui avait fait de la prison pour des escroqueries à l'assurance. Il se faisait des certificats de décès.
Ah.
Et donc il était mort plusieurs fois.
Ah, merveilleux.
Et donc.
Il est mort plusieurs
une
fois.
Une fois, je veux bien, mais deux, plusieurs fois, tu fais comment au niveau des assurances?
Je sais ils pas. Ils ont changé d'assurance.
Il
n'y
a pas
fois.
Un truc centralisé ou peut-être un truc, ou peut-être un truc étranger. Tu sais, t'as une assurance dans un autre pays.
Tout ça
ou...
doit être quand même très original.
Je sais pas.
C'est quand même pas très original, ouais, comme fraude à l'assurance. Dire que t'es mort et toucher l'assurance vie. Enfin bon.
Ah, en tout cas, c'est assez balèze. Bon, je vous propose qu'on passe tout de suite au Askip.
Thank you.
Alors un ASKIP en 9 questions cette semaine. Il y a de tout. Il y a du Covid et du pas Covid. Je crois qu'on commence par le Covid et après on va vers le pas Covid. ASKIP, un médecin de ville, a été menacé par courrier de sanctions disciplinaires par l'ordre des médecins pour avoir prescrit de l'hydroxychloroquine. Je vous laisse réfléchir.
Il était quoi ? Un médecin quoi ?
Un médecin de ville qui a été menacé par courrier de sanctions disciplinaires par l'ordre des médecins pour avoir prescrit de l'hydroxychloroquine. Alors, à qui ?
Faux.
Je dirais faux. Agara.
Difficile. Parce que je me dis que... Enfin...
Je dis c'est l'ordre des médecins, on n'est pas une aberration prête. Enfin, prêt.
J'aime mais... bien l'ordre des médecins, on dirait une secte.
C'est qu'il y a des pathologies pour pouvoir prescrire l'hydroxychloroquine, donc il suffit que... Enfin, il faut vraiment qu'il soit bête pour pas avoir fait croire à cette pathologie.
Donc, vous réfléchissez dirais... beaucoup trop.
Ouais, je dirais faux.
Docteur Fontagneux.
Je dirais vrai.
Tu peux t'abstenir. Hein.
En commentaire, mais je dirais vrai.
Voilà. Rusher.
Et le chat dit vrai.
Le chat dit vrai. Bah, c'est vrai. Les médecins généralistes qui prescrivent l'hydroxychloroquine ou l'association de médicaments Lopinavir, Ritonavir, exactement, risquent-ils des sanctions de la part de l'ordre des médecins ? C'est une bonne question. Ben, en fait, si. Une lettre adressée à un médecin circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Dans ce courrier, le conseil départemental de Charente-Maritime de l'ordre des médecins menace de conséquences disciplinaires. Cette lettre est vraie. Le courrier largement diffusé et commenté sur les réseaux sociaux s'adresse à un médecin, donc, pour des prescriptions pour traitement du Covid-19 qui semble ne pas se conformer aux données acquises de la science. Bon, moi j'ai hâte qu'il fasse la même chose pour l'homéopathie, hein, mais bon, bref, parlons pas de ça. C'est pas le sujet du jour, on parlera pas d'homéopathie.
Les médicaments, ils ont une AMM, autorisation mise sur le marché. Et donc, exactement. Théoriquement, si tu prescris, tu as le droit de prescrire hors AMM.
Bien sûr, tu as le droit.
Mais il faut marquer hors AMM, donc normalement, il n'y a pas de remboursement. Mais effectivement, là, de toute façon, je ne sais même pas comment il peut prescrire parce que tu n'en trouves plus en pharmacie, hein, ça.
Bah écoute, hein, a priori, nous dans
le
sud-ouest,
il après, le patient, il se débrouille. Mais par contre, je ne comprends pas, c'est que l'hydroxychloroquine a obtenu l'AMM, mais pour une autre pathologie. Donc
pour
il
le lupus,
que...
pour le lupus, voilà, pour les maladies auto-immunes.
Il suffit qu'il dise que son patient a un lupus et il ne risque pas d'être inquiété.
Et puis là, oui, bah là, tu risques autre chose, du coup, parce que tu mens.
Oh ouais, mais bon, faut qu'ils choisissent, quoi.
Bon, alors après, si le Conseil national de l'Ordre des médecins n'est pas à l'origine de la lettre, l'entité qui coordonne l'action du service départemental confirme son authenticité. Il s'agit d'un rappel à la réglementation, explique Bruno Boyer, président de la section santé publique du Conseil national de l'Ordre des médecins. Le courrier conclut en rappelant avec insistance qu'en cas de non-respect du code de déontologie médicale, ces positions pourront engendrer des conséquences disciplinaires. Donc Bruno Boyer rappelle que, j'ouvre les guillemets, la déontologie des médecins leur impose de prescrire des traitements scientifiquement avérés, oui. Scientifiquement avérés, dans l'intérêt premier de leurs patients. J'insiste sur le scientifiquement avéré pour l'homéopathie. Le Conseil de l'Ordre des médecins estime être dans son rôle de faire respecter le code de la déontologie des médecins. J'ai envie de jeter, de retourner mon bureau et de hurler quand j'entends ça. Alors, on est d'accord, pas d'accord, le protocole, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, qu'effectivement, en utilisant ce médicament, ça a réglé le problème du Covid. Mais l'homéopathie, ça n'a jamais réglé rien du tout.
Ouais, mais la grosse différence, quand même, c'est que l'homéopathie, c'est pas dangereux, contrairement à l'hydroxychloroquine.
Ah, mais ça, si, c'est dangereux pour les gens diabétiques, ils en prennent beaucoup trop. Il y a des effets secondaires.
Ouais, mais on leur a dit,
ça
faites attention. Comme
s'il y a des vrais trucs pour soigner quelque chose et
oui,
qu'on prend un truc qui fonctionne pas.
Retard de diagnostic.
Ça, c'est vrai.
Ouais.
Oui, ça donne un retard de diagnostic, mais en lui-même, l'homéopathie n'a pas d'effets secondaires.
Oui, mais c'est pas scientifiquement prouvé que ça fonctionne. Bah,
ouais.
Ils sont hypocrites à fond, en fait.
Un traitement scientifiquement avéré dans l'intérêt premier de leurs patients.
J'ai travaillé pendant 5 ans au centre antipoison de Marseille, et donc on avait des tentatives de suicide évidemment tous les jours. Il y avait des gens qui tentaient de se suicider à l'homéopathie, c'est arrivé plusieurs fois.
Aussi l'ocosinol.
Oui,
et
alors
après, ils appelaient
non,
pour dire je suis intoxiqué à l'homéopathie.
Ben, non, j'ai avalé une boîte ou deux boîtes ou trois
Qu'est-ce
boîtes.
Qu'est-ce
que je dois faire ? On disait ben, pas grand-chose.
Alors prenez un café.
Arrêtez le sucre pendant deux jours.
Prenez-le plutôt avec le café, ça sucre le café si vous avez l'habitude de sucrer le café. faites un gâteau avec.
Non, mais vu la taille que ça fait, c'est pas non plus ouf.
Non, y a, ça fait très peu, c'est très peu quand même. Hein. C'est microscopique. Non, mais
oui. Tu peux peut-être le mettre dans des cookies, ça fait un côté craquant, tu vois, au truc. Je sais pas. En tout cas, ça fait cher le sucre. Ouais. Tu m'étonnes. Après, non, c'est remboursé par la Sécu. Enfin, c'était. Donc, du coup, c'était pas mal. C'était un dessus gratos. C'est pas mal. Enfin, bref, vive les granules. Askip, la première volontaire à avoir testé le vaccin contre le coronavirus en Grande-Bretagne est morte. Je précise, à cause du vaccin.
C'était un peu tôt pour le tester aussi.
Bah, il faut bien le tester.
Bah ouais, mais... Non, mais même, c'est trop tôt.
Alors, à qui ? Est-ce qu'elle est morte ou pas ?
L'intitulé m'a l'air bizarre. Un vaccin... Moi, je dirais faux.
Toi, tu dirais faux. Chagara.
Ouais, je dirais faux aussi.
Docteur Fontagneux. Ah ah.
Je savais même pas qu'ils testaient des vaccins en Angleterre sur des gens déjà. On va dire faux.
Rocher.
Si je compte Minotaur, on a deux vrais, deux faux. Allez, on a un autre vrai, on va dire vrai.
Tu vas dire vrai. Alors, reprise par de nombreux blogs des États-Unis au Nigeria, l'info a cumulé. Ouais, déjà, quand ça commence par de nombreux blogs.
Quand tu dis reprise par. Ouais, ça va.
Des États-Unis au Nigeria, donc l'info a cumulé des centaines de partages sur les réseaux sociaux. Un article de l'obscur site N5TI a même cumulé jusqu'à 30 000 partages sur Facebook. On y lit que cette femme, une scientifique nommée Elisa Granato, serait morte deux jours après l'administration du vaccin et que les scientifiques responsables de l'étude auraient même déclaré que l'état critique dans lequel se trouvaient les autres participants à l'essai était un des effets attendus du vaccin.
Secondaire, oui, ça arrive.
Oui, mais c'est tout à fait normal.
Secondaire, la mort.
Non, état critique, pas mort. De quoi ravir tous les anti-vax, évidemment. Hein. Pourtant, il s'agit d'une fausse info. Elisa Granato n'est pas morte, elle va même très bien. La scientifique est effectivement volontaire pour un programme de l'université de Oxford qui doit inclure à terme 800 personnes, une moitié testant le vaccin contre le coronavirus et l'autre recevant un autre vaccin random.
Random.
Oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, ils testent un autre vaccin. Voir si un autre vaccin est aussi efficace que le vaccin contre le coronavirus, ce qui signifie que du coup, bah, ça ne sert à rien. Personne.
Donc, s'il y en a un qui se tape un vaccin bien vénère, il est content, quoi.
C'est ça, exactement. Personne ne sait lequel des deux a reçu Elisa Granato, mais on sait en tout cas qu'elle est bien vivante. Dès le début de l'intox, le ministère de la Santé britannique est allé de son communiqué pour mettre fin à la rumeur. Une journaliste de la BBC a aussi interviewé la scientifique pour prouver au public qu'elle allait bien. Ses communications ont fait disparaître certains posts Facebook et articles de blogs mensongers, mais la publication la plus massivement partagée qui a suscité cette rumeur continue, elle, de tourner sur les sites complotistes. Ah bah, elle m'a l'effet, hein. Voilà, c'est tout. C'est comme d'habitude.
Enfin, c'est pour lui injecter une puce, une micro-puce.
Micro-puce, c'est ça, exactement.
Oui.
Merci Bill Gates.
J'ai vu ça. Ouais.
Merci Bill Gates.
Dans leur fake news, ils auraient quand même pu prendre quelqu'un qui était réellement mort, mais d'autres choses.
Oui, c'est
parce
ça.
Que là, parler de quelqu'un qui est vivant, c'est quand même assez facile à prouver qu'en fait, la personne est vivante.
Je connais un joueur de foot allemand qui aurait bien aimé...
Qu'on fasse croire à sa mort.
Surtout en ce moment.
Oui, tu as raison, Chagara. C'est tellement facile. Tu prends sur les trucs des gens décédés et puis tu racontes une histoire.
Tu dis, oh là, tu racontes. Ouais. Bon, sa famille, par contre, risque de vraiment pas être contente.
Tu m'étonnes.
Bah, tu prends quelqu'un sans famille, puis voilà.
Ah bah ouais. Askip, la qualité de l'air à Paris s'est améliorée avec le confinement.
C'est bizarre. Alors, parce que ça paraît évident comme réponse.
Bah oui.
Je suis sûr qu'il y a un piège.
À qui ? Est-ce que la qualité de l'air à Paris s'est améliorée avec le confinement ? On va commencer par Chagara. Tiens, allez, Chagara.
Mais j'allais dire, je sais qu'à Lyon, c'est pas le cas.
Ah.
Ah.
Chagara.
Bon, je dirais oui quand même. Je sais que c'est vrai quand même.
Toi, tu dirais que c'est vrai. Oui. Donc, à qui ? Toi, tu dirais quoi ? On parle de Paris, hein, c'est très spécifique, hein.
Ouais.
Pas global. Docteur Fontagneux.
Bah, c'est tellement. Je l'ai lu tellement partout.
Tellement évident.
Alors, je cherche le piège, mais j'ai quand même dit oui.
Déjà, il doit y avoir moins de caca de chien.
ouais,
ça
pollution,
fait partie de la pollution de l'air.
Dans la qualité de l'air, ouais, bon, ça sent moins mauvais peut-être. Rusher, et c'est pas sûr qu'à 4 chiens, vu qu'ils sortent 5 fois par jour au lieu d'une seule, c'est pas gagné.
Mais ils sont tous partis en province.
Rusher.
Et bah, comme dit Jaël, c'est vrai.
C'est vrai, vrai, avec un accent aigu. Pour les climato-sceptiques, avec le confinement, la qualité de l'air ne s'est pas améliorée à Paris. C'est ce qu'affirme un article de Causeur, publié mi-avril, après un mois de confinement. Donc l'article de Causeur reprend un papier d'abord publié sur le site Transition et Énergie, qui titrait de manière un peu plus prudente « Depuis le confinement, la qualité de l'air ne s'est pas vraiment améliorée en région parisienne ». L'article s'appuie sur l'historique de l'indice CITER, mis en ligne sur le site d'Air Paris, l'association de surveillance de qualité de l'air en Île-de-France. Il montre des graphiques qui donnent l'impression que la qualité de l'air était meilleure en février qu'elle ne l'est depuis le début du confinement. Pour les lecteurs des sites conservateurs, cela montre que la voiture n'est pas responsable de la pollution à Paris, une sacrée claque pour les écolos, ou encore Greta ment, Hidalgo ment, plus de voitures à Paris, mais toujours la même pollution, ce n'est pourtant pas si simple. D'abord, les comparaisons doivent s'effectuer non pas sur février-mars, mais plutôt sur une même période, en l'occurrence entre mars 2019 et mars 2020, car il faut prendre aussi les conditions météo.
Et oui, chauffage.
Voilà. Et même les activités, tout court. Donc si on applique ce paramètre, Air Paris remarque une baisse de 20 à 35% de dioxyde d'azote, ce polluant local principalement émis par le trafic routier entre 2019 et 2020. Et cela va même jusqu'à moins 50% le long des axes routiers.
Oh, c'est pas étonnant, ouais, bien sûr.
Du jamais vu en 40 ans de mesure, avance l'association. Quant au CO2, ses rejets ont diminué de 30%. Ensuite, les graphes comparés par Causeur ne montrent pas le même type de pollution entre février et mars. Sur le graphique, les particules qui n'ont pas diminué sont celles qui sont liées au chauffage et à l'agriculture. Le confinement n'a aucun impact sur ces rejets, évidemment, mais cela n'a aucun rapport avec la voiture, dont la baisse d'émissions polluantes a bel et bien amélioré la qualité de l'air à Paris de façon spectaculaire. Donc en gros, on ne comparait pas la même chose, forcément. Bref. Ouais, mais non, mais... Écoute, quand on veut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, on compare ce qu'on veut.
Oui, le freinage aussi, oui, c'est vrai.
Oui, exactement, ça émet des particules, les freinages et tout ça. Même le simple fait que la gomme roule sur l'asphalte, ça suffit hein, aussi. Tiens, à côté, c'est en train de discuter dehors.
Non, je pense que les voisins se disputent, c'est le confinement.
Attends, on va voir, attends, j'écoute.
Je suis libre demain, je te quitte, ok.
Non, c'est la fin du confinement apparemment pour tout le monde. Ah, ben ça y est, dans 2 heures, c'est minuit, je te quitte. Très bien. Donc il y a des couples qui vont se défaire ce soir à minuit, hein, je vous le dis. Askip, le Covid-19 a été créé à partir du virus du sida.
Non mais sérieux, ils en ont pas marre.
Attends, j'ai pas compris. Pardon,
Askip, le Covid-19 a été créé à partir du virus du sida.
Bah oui, à ce qui paraît, ouais. Mais c'est faux.
Ah bah, à ce qui paraît, ouais.
Alors chaque toi tu dis c'est faux.
Bah oui, j'ai dit que c'est faux. Mm-hmm. Mais je dis que c'est ce qui paraît pour les gens. Comme ce qui paraît, c'est la 5G, tout ça.
Ouais, c'est ça. Donc à qui?
C'est faux.
Ouais, docteur Fontanieu.
Mais c'est faux, mais c'est ce qu'avait dit. Comment il s'appelle, professeur Montagnier, oui. Non, c'est faux.
Rocher.
C'est faux, et j'espère que Roxy Jus troll.
Ouais, elle a mis un smiley à l'envers, je pense qu'elle troll.
Bon, alors, exclusif pour le professeur Montagnier, le SARS-CoV-2 serait un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH. Le scoop du site Pourquoi Docteur n'est pas passé inaperçu et pour cause, c'est le virologue Luc Montagnier, co-lauréat du prix Nobel de médecine en 2008, pour avoir découvert le virus du sida. Pour avoir découvert le virus du sida, non, pas Gilbert Montagnier, non, qui a fait cette déclaration fracassante. Remarque, vu que les stars sont devenus tous virologues, hein, on pourrait.
Mais il a un prix Nobel de quoi, lui?
De médecine. Il est virologue.
Oui,
donc,
ça a été
c'est son sujet.
Pas mal remis en question en ce moment.
Ouais, bon. Il explique. C'est lui qui avait découvert le virus du sida, en fait.
Oui, oui.
Donc, équipe.
Oui, son équipe. Oui, c'est vrai. Souvent,
ouais, mais il l'avait créé en laboratoire à la base, donc en fait, c'est normal.
Ouais, voilà, c'est ça. La boucle est bouclée. Il existe ainsi de nouveaux coronavirus qui seraient issus en partie d'une manipulation donc, de chercheurs chinois essayant de trouver un vaccin contre le sida. En gros, ils disent bon, ça part d'une bonne intention, on veut trouver un vaccin contre le sida et finalement, on crée un nouveau virus. Donc, c'est CNews, sur CNews, pardon. Vraiment, je vous recommande vraiment cette chaîne info si vous voulez voir de la merde. Il affirme qu'au coronavirus de la chauve-souris, on y a ajouté par-dessus des séquences de VIH. Cette thèse a effectivement été établie par des chercheurs indiens. Selon eux, 4 mutations du SARS-CoV-2 étaient similaires à des mutations existantes sur 3 souches distinctes du VIH. Ces allégations ont été réfutées par une équipe de virologues chinois et nord-américains. En effet, ces séquences qui seraient similaires au VIH se retrouvent dans de très nombreux virus. Et,
oui.
Et elles partagent d'ailleurs bien des similarités avec d'autres virus que le VIH.
Oui, c'est comme nous, quoi. On a 99% de notre ADN qui ressemble à la banane.
Absolument. Mais en plus, je veux dire, c'est un argument d'autorité. Je veux dire, il est virologue. Non, mais je veux dire,
non, c'est son équipe.
Il a pas fait d'études. Il est à la retraite. Il lance ça comme ça. Il n'y a pas de preuve. Il n'a pas fait d'études. Il sort pas de son laboratoire. Donc, il a son argumentaire, il est nul. Quoi, je pourrais dire la même chose moi. J'ai
oui,
pas
mais
plus
il s'est mouillé le doigt. Il a levé et il a dit, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est tout.
Ça devrait pouvoir se retirer des prix Nobel.
C'est dramatique. Oui. Non, mais je veux dire, c'est un grand chercheur. C'est vrai qu'il a son équipe avait découvert le virus du SIDA, mais là, je veux dire, enfin.
Non, mais quand il sera mort, ce sera réglé et puis c'est bon.
Non, mais il y a beaucoup de ses publications qui sont tout aussi discutées que celles de Raoult, quoi.
Oui. Bizarrement. Enfin, les fameuses séquences se retrouvent également dans plusieurs coronavirus de chauve-souris découverts plusieurs années avant le SARS-CoV-2, évidemment. Pas de quoi prouver donc que le coronavirus a été manipulé à partir d'ADN de VIH. Trop fragile, l'article indien d'origine a été retiré sur le site sur lequel il avait été prépublié. Mais le professeur Montagnier, lui, n'a pas jugé nécessaire d'expliquer pourquoi cet article avait été supprimé.
Montagnier, il était contre les vaccins, il est pour la mémoire de l'eau, enfin c'est... Oui.
Non, il est confraternel. Alors, à Skip, un sanglier a été aperçu dans les rues de Cannes.
Ça doit être possible, ça.
Alors, à qui ? Est-ce qu'on a vu un sanglier dans les rues de Cannes ?
Comme quoi, tous les montagnés sont aveugles.
Moi, je veux dire vrai.
Je veux dire vrai. Chagara.
Vrai.
Chagara dit vrai aussi. Le docteur Fontagneux, qui est pas loin du coup.
Je l'ai pas vu, je vais te dire les rues de Cannes. Ouais. Allez, je vais dire vrai.
Et recherche.
Il nous sort finalement, c'est Nice.
Ouais. Tout le chat dit vrai, donc il devait être au courant.
Il devait être au courant. Donc l'animal a profité des derniers jours du confinement et du report du festival de Cannes pour s'offrir une virée sur la croisette. Privé des festivaliers, sa faune principale en cette période de l'année, la croisette cannoise a reçu ce week-end la visite d'une starlette improbable, un jeune sanglier d'une cinquantaine de kilos quand même, a constaté la police municipale. L'animal solitaire donc a été repéré par une patrouille de nuit vers 1h50 dimanche. Donc c'est là cette nuit. Hein. Voilà, déambulant tranquillement sur la croisette, totalement désertée, visiblement peu farouche. Voilà, à l'idée d'être filmé.
Si il a croisé personne. Notre
objectif, même si la ville est déserte la nuit en ce moment du fait du couvre-feu, était d'éviter que le sanglier ne puisse causer un accident et aussi qu'il se fasse mal à lui-même. Hein. Donc la patrouille a donc patiemment suivi la bête qui s'est promenée tout le long de la croisette, s'offrant même une partie de lèche-vitrine du côté des boutiques de luxe à proximité du palais des festivals. Escorté de près par une voiture de police, l'animal a finalement rebroussé chemin et a regagné, après un dernier détour par le célèbre établissement du Palm Beach à la pointe de la croisette, donc le massif forestier situé sur la colline de la Californie, d'où il était probablement descendu.
J'ai cru que voilà. T'allais annoncer qu'il l'avait buté, quoi.
Ben, en fait, ils auraient pu, parce que c'est considéré quand même comme une espèce un petit peu envahissante en ce moment.
Oui, bon, ça va, là, les chasseurs vont ressortir à partir de lundi, c'est bon.
C'est pas faux. Déjà, ils avaient... Ouais, c'est vrai.
Ils sont déjà dehors, donc.
Ils sont déjà dehors. Ils sont...
135 euros, mon cochon.
Il y a des régions, ouais.
135 euros, mon cochon.
À 50 kilos, il est plus gros que moi.
Donc de mémoire de policier, c'est la première fois que j'en vois un sur la croisette, s'amuse Yves Darros, en notant que les sangliers sont également présents dans un autre massif de la ville à la Croix des Gardes. Voilà. À partir de demain, ça va faire tellement... Tu sais, tu sors et tu tombes face à des sangliers, la faune sauvage et tout, n'importe quoi. Merci Jaël pour ton Twitch Prime, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, vous savez de quoi on parle. D'ailleurs, je vous conseille de venir le dimanche soir sur Twitch, c'est intéressant.
Maintenant que les barbecues vont revenir, il est suicidaire ce cochonou.
Tu m'étonnes. À Skip, deux mecs se sont déguisés en bouée marine pour pouvoir se baigner et braver le confinement. Alors, docteur Fontagnon.
Oui.
Chagara.
Oui.
À qui
Oui.
et Rusher.
Eh bah oui, parce que Scalen tout à l'heure a partagé le lien.
Alors, deux quinquagénaires ont usé d'un subterfuge pour un bain de mer vendredi à hier, en fait, dans le Var. Une blague verbalisée, 135€ pour un des baigneurs seulement, qui a enfreint donc la règle du confinement. Pierrot a craqué, avec le soleil et la mer à côté, cet habitant de hier et un ami se sont autorisés vendredi une petite baignade. Comme le raconte Nice Matin, les deux compères sont déguisés en bouée de balisage. Il y a une vidéo qui est à mourir de rire. Bien conscient de passer outre les restrictions du confinement et notamment l'interdiction de fréquenter les plages de hier, les deux compères ont imaginé un camouflage inédit en couvrant leur tête de bouée marine pour passer inaperçu. Dans l'eau, ça marche. Hein. Sur la plage, ça marche beaucoup moins.
Ça fait vraiment tête de bite sur la plage.
Clairement. J'ai joué et j'ai perdu, reconnaît Pierrot. Mais au moins, j'ai fait marrer les gens. Bon, une blague à 135€. Quoi. Mais la zone est sous surveillance, donc les deux baigneurs ont été repérés par les forces de l'ordre. L'un d'eux a réussi à partir avant l'arrivée des agents, et l'autre a dû s'acquitter donc de l'amende.
Oh, c'est pour lâche. Ça qu'il a pas eu l'amende.
Et c'est pour ça qu'on ne sait pas comment il s'appelle. Il y a Pierrot, mais on ne sait pas qui est l'autre. Il a souhaité garder l'anonymat. Bah non, voilà. Attends.
C'est beau.
Non, j'étais seul. Vous avez bu, monsieur l'agent, j'étais seul. Bon, à Skip, en Espagne, on élimine le pollen de peuplier dans les parcs en y mettant le feu.
En plus, ça brûle super vite, cette connerie.
Le pollen de peuplier, je sais pas si vous voyez, hein, c'est des trucs blancs, une espèce de peluche blanche, en fait.
Ouais.
D'ailleurs, il y en a souvent plein partout par terre et tout ça. Ouais, voilà. Il y en a plein qui se mettent partout et tout, et ça prend super bien feu, ouais.
Il y a moyen, hein.
Alors,
ouais, moi, je dirais vrai.
Ah, volontairement, après, il faut que ce soit bien contrôlé, quoi.
Toi, tu dirais quoi, qui?
C'est dur, du coup, je dirais vrai. Avec toutes les allergies.
Docteur Fontagneux. Ouais.
Alors moi j'ai vu le film qui tourne sur internet, mais je dirais faux. Je pense que je dirais faux.
Rusher.
On a 3 vrais, 2 faux. Du coup ce sera vrai.
Le pollen des peupliers a été incendié pour nettoyer une partie du parc d'El Sidacos, donc à la Rioja en Espagne. Les pompiers de Castilla y León préviennent du risque de cette pratique. Avec l'arrivée du printemps, les pollens ne causent pas seulement des allergies, mais exposent aussi certaines régions aux incendies. Le duvet de pollen de peuplier qui recouvre le sol d'un tapis blanc argenté, magnifique mais très allergène, peut également être à l'origine de feux de forêt. En Espagne, dans le parc de la ville, ces peluches blanches ont été incendiées, ce qui a provoqué un spectacle assez impressionnant. Les flammes qui mangent le pollen dévoilent peu à peu la pelouse verte, et c'était volontaire en fait.
D'accord.
Voilà. Ouais, j'ai vu la vidéo sur Facebook, donc c'est vrai.
Moi j'avais vu la vidéo, mais je savais pas que c'était volontaire. Je pensais que c'était un accident, quoi. Quelqu'un qui avait jeté un mégot.
T'as pas lu la.
C'est trop beau, ça brûle super vite, c'est trop bien.
Ah oui, c'est rigolo. Askip, un pharmacien phytothérapeute indien, a voulu tester un remède contre le Covid sur lui et est mort. Et on est mort, pardon.
C'est impossible. Précise pour quelle raison qu'il est phytothérapeute ?
Parce que c'est un remède naturel, voyons.
Un rapport, d'accord.
Alors, Chagara.
Je dirais vrai.
Tu dis vrai. C'est un pharmacien, quand même. À qui ?
Il n'y a pas de peut-être ce qu'elle
est. Il y avait un indice. Hein.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La réponse de Breton.
Alors,
vrai.
Docteur Fontagneux.
Ouais, je dirais.
Ce serait dommage que ce soit pas vrai, c'est ça.
Non, mais il a dû vouloir essayer une plante, il s'est trompé de plante. C'était
un dosage.
Et bien, le chat dit vrai.
Ah. Loin des essais cliniques et des longs protocoles de recherche de laboratoire, un pharmacien en Inde a trouvé la mort en avalant un mélange de sa composition trouvé sur internet qu'il testait pour soigner le coronavirus. Son patron, lui, est à l'hôpital. Un pharmacien indien est mort et son patron a été hospitalisé après avoir bu une décoction de leur fabrication dont ils espéraient qu'elle puisse guérir du Covid-19, a annoncé la police samedi. Les deux hommes travaillaient pour une entreprise spécialisée dans la phytothérapie et essayer sur eux-mêmes le supposé traitement, un mélange d'oxyde nitrique et de nitrate de sodium dans une maison située à Chennai, donc au sud-est de l'Inde.
Phytothérapie, ça.
T'es pas trop très plante, ça, hein,
Du coup, ça les a guéris de la vie.
Donc, Sivan Essan, 47 ans, est mort sur place. Donc, oui. Je pense que ça l'a guéri de la vie. Il n'avait plus le Covid. Hein. Selon le chef de la police locale, Ashok Kumar, il avait développé sa formule en effectuant des recherches sur Internet et acheté les ingrédients sur un marché local. précise le policier.
Des recherches sur Internet.
Oh, mon Dieu. Ouais.
Ouais, par contre, je comprends pas pourquoi ils ont recherché sur Internet. C'est censé être des professionnels de ce domaine. Ouais, mais j'aurais pas l'idée.
Ouais, je sais pas, écoute.
Ils sont allés sur Doctissimo, ils ont regardé.
C'est ça. C'est ton boulot, tu sais.
Surtout que oui, l'oxyde nitrique ou je sais pas quoi, ça rien d'une plante, c'est. Oui, c'est oui. La bonne vieille.
Mais rien qu'au nom, voilà, ça a pas l'air très bien, quoi.
C'est ça. Alors, attention, à skip, pas de Covid. Là, on va parler un peu. Je finis par un animal toujours étrange. Mais peut-être est-il trop étrange pour vous. À Skip, un ver de terre asiatique envahit les jardins et s'attaque à nos vers de terre. Comme le frelon.
Un ver de terre, mangeur de vers de terre.
C'est ça.
Comme les frelons.
Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent du frelon asiatique, quoi. Alors, à qui ?
Je dirais faux. Arrêtez de tout mettre sur la tronche des Asiatiques.
Ah, je dirais vrai.
Docteur Fontanieux.
Oui, vrai.
Rusher.
C'est juste un ver qui a le coronavirus, en fait.
Rusher, toi, il dit quoi ? Faux.
Le chat dit faux, ouais.
Le dit faux. On connaissait la punaise diabolique, le frelon asiatique et l'écureuil de Corée. Voici une espèce de ver exotique géant prédateur appelé le platelminthe terrestre ou Bipalium kewenzé, qui menace la biodiversité. Une étude menée par le professeur Jean-Loup Justine montre que le département des Pyrénées-Atlantiques, particulièrement le Pays Basque, est envahi par une espèce de ver plat à tête de marteau. Je vous jure, sur la photo, on dirait que vous avez déjà vu des requins marteaux au bout, avec les yeux sur le côté. Ben, en fait, ça a vraiment cette tête-là.
Ah ouais, je vois, c'est dégueulasse. On dirait plus après, un serpent. Ouais.
Attends, c'est pas fini. Près de la moitié des signalements donc, proviennent des Pyrénées-Atlantiques, surtout de la partie côtière entre Bayonne et la frontière espagnole. Le jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz en signale. Donc François Esneau, donc technicien de biodiversité et des paysages du département, confiné dans son jardin en Anglette, en a trouvé tous les jours au moins deux espèces différentes. Un rayé jaune et un bleu-violet. Voilà. Michel Arribialaga donc a également trouvé un de ces vers géants devant sa porte d'entrée pardon à Cibourg. Il était en train de becquer un lombric qui travaillait généreusement à aérer la terre de mon jardin. Donc pour ce chercheur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, Jean-Loup Justine, donc la présence de ces vers géants aux Pays-Bas s'explique par la douceur du climat. Les platelminthes terrestres viennent dans les régions semi-tropicales d'Asie. Ils ont deux ennemis, le froid en hiver et la sécheresse en été. Le climat des Pyrénées-Atlantiques, caractérisé par un hiver doux et son été jamais tout à fait sec, ça c'est un euphémisme, constitue un paradis pour eux. Voilà, ces platelminthes donc terrestres seraient passés de continent à continent par le transport de plantes dans la terre des pots en fait. L'introduction de ces espèces exotiques envahissantes serait une des conséquences de la mondialisation et de l'accroissement des échanges internationaux de marchandises. Depuis que ces vers de terre géants sont arrivés dans les jardineries de France, il y a près d'une vingtaine d'années, ils se propagent rapidement. L'anatomie de ces animaux est étrange. La bouche n'est pas au niveau de la tête en fait, elle est au niveau du ventre, au milieu du corps. En fait, vous voyez, son corps est un peu plus large.
C'est un vrai monstre ou quoi ?
Attends, pire que ça, il n'a pas d'anus.
Mais
selon oui,
on y évacue.
Et ben voilà.
Même orifice.
C'est le même orifice. Par la bouche. Exactement. Donc selon les espèces même d'asiatiques.
Ah, j'ai vu qu'il y en avait un paquet qui était comme ça. Ouais.
Donc les yeux sont très nombreux et disposés tout le long du corps et presque invisibles. Ils sont tout petits. C'est-à-dire qu'ils vont à 360 autour de lui. C'est parfait pour lui pour se garer, tu vois. Il peut faire un créneau en 2-2. Il voit partout en fait. Ça c'est n'empêche c'est ouf quoi. Et les glandes de la peau sécrètent un mucus gluant, donc en plus il est super gluant le truc. La vidéo, ouais, 40 cm hein, le ver. Donc facile à reconnaître donc, par la tête marteau et leur corps très long, pouvant mesurer jusqu'à 40 cm. Ces prédateurs de vers de terre, donc ils peuvent menacer la biodiversité des sols, l'équilibre écologique. Ils possèdent un armement chimique incluant la tétrodotoxine. Voilà, c'est ça, les fameux fougous, les poissons. Ouais. Globe. Donc le fougou, donc c'est l'un des neurotoxiques les plus puissants du monde, hein. 1000 fois plus actif que le cyanure. Et ben il a ça parmi ses armes chimiques. Donc dès qu'il croise un ver, pim.
Oh.
Non,
mais
non, regardez pas ça.
Naturel,
c'est
naturel du coup.
Justement.
Bah non, alors, le bouffe il meurt.
Voilà. Déjà il a été longtemps confondu avec des sangsues. Le vert géant d'Asie du Sud fait l'objet d'aucune étude avant le travail de recherche donc, de Jean-Loup Justine qui l'a débuté en 2013. Il semble paradoxal que l'invasion d'un pays développé en Europe par des animaux aussi spectaculaires et bien visibles et potentiellement dangereux pour la biodiversité n'ait pas attiré l'attention d'aucun scientifique, d'aucune institution avant quoi en fait. Aucun produit phytosanitaire ni biocide n'est prévu pour lutter contre ces espèces exotiques. Ils n'ont ni prédateurs ni parasites chez nous.
Oh, mais c'est incroyable.
Donc voilà, donc ceci est un des facteurs de prolifération assez connus chez les espèces invasives. La toxicité de ces vers plats semble même décourager les prédateurs autochtones potentiels comme les poules. Voilà, il est vivement recommandé de ne pas les toucher à main nue. Il est interdit de les écraser. Ah oui, même pour nous, oui. Et il est interdit de les écraser. Pardon, il n'est pas interdit, pardon, de les écraser, ajoute le chercheur. Mais le plus important dans l'immédiat, c'est d'avertir les scientifiques de leur présence.
Pas les manger non plus. Alors.
Bah, je vais surveiller mes vers.
Ouais.
Je vais les protéger.
Nous, on les élève, donc on en a plein.
En plus, ça vient de ton coin pourri là. C'est encore les basques, ça.
Arrête de commander des plantes sur Internet aussi en Chine.
Hein. C'est n'importe quoi.
Ouais, c'est ça, je t'ai vu.
Commander les graines plutôt.
On a une égalité pour la première place. Donc c'était sur 9 aujourd'hui. On a le docteur Fontagno avec 8 points quand même.
Bien joué.
Et Chagara avec 8 points. Suivi d'une autre égalité, Rocher et Aki. Donc la chatroom et Aki avec 7 points. Voilà. Ah, c'était presque le sans faute pour le docteur. Hein. Presque le sans faute. Il y a eu.
Moi je me suis trompé sur la première. Je crois.
Oui c'est ça. Donc toi dès le départ c'était grillé.
Dès le départ j'ai donné.
Et voilà. Et en fait c'est à la 7ème question que le docteur Fontagno a chuté. D'ailleurs, à la 7ème question, vous étiez tous à 6.
C'était laquelle ?
C'était le pollen.
Pollen ?
Ah voilà. Ouais. Ça, vous regardez la légende des vidéos ?
À la 8ème question, vous étiez tous à 7. Et donc, la dernière, avec les verres, a fini par vous départager.
Ah ouais, il était à deux doigts de gagner, quoi.
Ah ouais. T'imagines ? Heureusement que tu as surgi de l'ombre.
Sans faute.
Non, c'est pas un sans faute.
Bah, il aurait fait un sans faute.
Ouais. Ah oui, s'il avait trouvé le pollen, oui. Dommage, hein. Échoué comme ça, si près du but. C'est...
Non, moi j'aurais pas pu.
T'aurais pas supporté.
Non, la première, je.
Toi c'était jamais. La remontada, tu vois. Bon, enfin, bref. C'était tout pour le Askip. Et maintenant, on va passer au Lévressage. Je pense que tous les complotistes là du Covid, ça, ils devraient utiliser cette chanson. Je suis le gourou qui va vous soigner du Covid. Bon, bref, c'est l'illumination ce soir, Chagara.
Ouais, l'illumination, je sais pas. Je sais pas si c'est une histoire que vous aurez envie de raconter, mais écoutez, ça vous instruira un peu. Mais c'est pas très joyeux, c'est pas. Non, si bête, t'es pas avec nous. je vais vous parler de Monsieur Kellogg's. Et de sa véritable histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, enfin bon, des Kellogg's, vous savez ce que c'est, mais de sa vraie histoire qui est un peu farfelue quand même. Hein.
Je me semble en avoir entendu parler, mais je ne sais plus.
Donc c'est l'inventeur des cornflakes. Hein.
Oui, tout à fait.
Et il est quand même, c'est un homme très particulier alors. Donc il est né en 1852 au Michigan, aux States. Il allait devenir un médecin nutritionniste des plus connus du XXe siècle. Donc il gagne en notoriété, il devient médecin en chef du sanatorium de Battle Creek dans le Michigan. Donc pour les rappels, hein, les sanatoriums, c'est des sortes d'hôpitaux de convalescence où les personnes atteintes de maladies infectieuses, comme par exemple la tuberculose, sont mises en quarantaine. Mm-hmm. Peut-être qu'il y en aura pour le coronavirus. Donc, le sanatorium de ce monsieur, c'était quand même un sanatorium assez célèbre, qui comptait quelques 1600 patients au plus fort de son activité au tournant du XXe siècle.
Okay.
Et il a quand même soigné des patients assez célèbres, comme le président républicain Howard Taft, l'aviatrice Amelia Earhart, le dramaturge George Bernard Shaw, l'ingénieur automobile Henry Ford, l'actrice Sarah Bernhardt, la militante Sojourner Truth ou encore Thomas Edison. Donc il y a pas mal de monde qui sont passés dans son sanatorium.
D'accord.
Et donc il a consacré toute sa vie à trouver un équilibre harmonieux entre la science et sa foi. Et à mettre en pratique cette synthèse dans sa propre pratique médicale. Donc c'est assez compliqué pour lui. Comme de nombreux sanatoriums à l'époque, celui de Battle Creek est financé et régi par une église. Bon, déjà, ça commence mal. Parce que du coup, pas très très indépendant, quoi. Donc c'est l'église adventiste du 7e jour.
Disons qu'on sent que ça risque d'être un peu orienté, quoi.
Voilà, exactement. Et donc Kellogg était membre de cette église adventiste. Mmh. Et donc eux, ils sont partisans du végétarisme.
Ah.
Je sais pas s'ils sont crédivores, mais à mon avis, ils sont pas loin de...
On n'est pas très loin de ça.
Ouais. Ils sont partisans
d'ailleurs, au passage, je signale. J'ai quitté les deux groupes crudivores, là, et je les ai signalés.
Dernière news.
Ouais, dernière news.
Breaking news.
Breaking news. Puisqu'en fait, non, ils commencent à recevoir des avertissements de mouvements sectaires et tout ça, là. Donc, je dis, ok, bah, c'est parfait, c'est le moment de les signaler. Donc, du coup, j'en ai profité pour les signaler et tout ça. C'est lié en particulier au fait que parmi eux, il y a des gens complètement allumés. D'ailleurs, j'en vois souvent des vidéos au docteur Fontagneux. Et là, il y avait les 4 carrés de l'Apocalypse, d'ailleurs, qui sont réunis pour faire un live la semaine dernière. Complètement allumés. En direct, non, je me suis connecté. Et encore, c'était le milieu du direct. Donc, c'était pas le summum du truc. Ils étaient 50 000 personnes à regarder en direct sur YouTube.
Oh là là.
Mais ils étaient tous en train de faire comme toi. Hein.
Je sais pas. Il y avait très peu de trolls dans la chatroom. Hein. Les gens qui parlaient étaient très sérieux. En disant, vous allez nous sauver, on vous fait confiance. Et ils expliquaient quand même que des médecins se faisaient assassiner sur commande de l'OMS, quoi. C'était un ramassis de conneries incroyables.
Attention, Compagnieux.
Oui, attention. C'était un ramassis de conneries incroyables. Et du coup, c'est ça. Casas Novas et les trois tocards, exactement. PV le Worm. C'était fou.
Je sais pas du tout de quoi vous parlez, mais d'accord.
Non, mais à la limite, restons dehors de ça, Rocher. Restons dehors de ça. Et c'était était bourré de légumes, la chatroom, c'est ça, Minotaur. Cru, hein, hyper important, cru. Mais franchement, c'était à pleurer de désespoir, en fait, parce que c'est vraiment ça. Déjà, j'ai quitté les groupes parce que ça me permet de plus voir ces trucs-là, parce qu'à force, je commençais à me dire, mais c'est pas possible.
Il commence à y croire, en fait.
Non, j'y croyais pas du tout, mais ça me désespérait.
C'est aussi con, quoi.
Non, mais en fait, tu sais, ça te désespère de voir des gens tomber là-dedans. Et qui y croient dur comme fer. Y a même des gens en face qui ont dit, mais attendez, y a eu un truc partagé il n'y a pas longtemps sur la 5G où quelqu'un disait, c'est vrai que c'est un super business model de tuer tous ses clients avec la 5G. Et donc il y en a un qui dit, t'es qu'un troll, machin, enfin ils veulent l'exclure. D'autres qui lui disent, mais t'as rien compris en fait, ils font une sélection, ils tuent que les plus faibles. Enfin, les mecs sont au taquet là-dessus, c'est juste hallucinant. Hallucinant d'entendre ça. Et moi, à force, honnêtement, ça me minait le moral dans le sens où je me disais, je crois plus en l'espèce humaine, quoi. Tu vois
le problème avant, c'est que les gens disaient ce genre de conneries dans le café du commerce, donc il y avait trois pecnos qui les écoutaient.
Ouais, maintenant, mais là, c'est un café de 50 000 personnes.
Voilà, maintenant, quand tu dis ça,
tu remplis un stade de France, quoi.
Sur Twitter ou n'importe où, tout le monde t'écoute. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème.
Ah, mais imagine, t'as rempli le stade de France.
Après, c'est dommage d'associer ces abrutis aux crudivores.
Eux
ne voulaient absolument pas personne.
Oui, mais le problème, c'est que.
Bon, c'est pas top peut-être de manger que cru toute ta vie ou tous les jours, à la base, c'est un régime alimentaire.
Mais tu vois, par exemple, il y avait des anti-vax, il y avait tout un tas de trucs sur ces groupes-là. Moi, j'en ai signalé quelques-uns et les admins ne faisaient rien. Mais quand je dis faisaient rien, c'est faisaient rien du tout. En fait, ils s'en foutaient à la limite.
Parce que les admins en font partie.
Bah, peut-être. Il y en a un, en tout cas, oui. Les admins eux-mêmes postaient des vidéos complotistes sur la 5G, sur le coronavirus et tout. Donc même pas étonnant, quoi, en fait. Enfin, bref, j'ai débordé. Je te laisse continuer.
Donc, revenons à nos moutons.
Enfin, nos Kellogg's.
Nos Kellogg's. Nos cornflakes.
Ouais.
Et donc, nos adventistes du 7e jour. Je sais pas si ils étaient complotistes ou quoi, mais... En tout cas, ils sont partisans du végétarisme, de l'abstinence de consommation d'alcool et de tabac et de l'exercice physique régulier en plein air. Bon, en soi, c'est quand même...
c'est très bien, pour l'instant.
Voilà, c'est pas si mal.
Jusque-là, ça va.
Jusque-là, ça va. En plus de ces préceptes fondamentaux auxquels il adhérait, le docteur Kellogg s'était convaincu de deux choses. D'une part, il fallait consommer de grandes quantités de fruits oléagineux, noisettes, noix, amandes, etc.
Okay.
Et de céréales pour rester en bonne santé. Une grande quantité, bon, je pense qu'il faut consommer de tout avec modération, mais... en soi, c'est peut-être pas si mal que ça. Par contre, il y avait autre chose qui, à la fin... il était aussi... pour lui, il fallait proscrire toute consommation de viande ou de plats épicés de son alimentation.
Ouais.
Alors, en soi, à notre époque, on dirait que c'est pas si mal, mais c'est surtout sa motivation qui est un peu discutable. Parce que selon lui, cette nourriture stimulait fortement l'appétit sexuel.
Mmh. Et du coup, il valait mieux s'abstenir, c'est ça ?
Exactement.
Ah, je comprends mieux.
Donc, il a inventé les cornflakes.
C'est un régime facile. Bah oui, tu prends des cornflakes.
Ah, c'est ça.
Voilà, oui. Des flocons de maïs cuits au four.
Il faudrait que j'arrête d'en manger alors.
Il a fait ça pour les patients du sanatorium.
Ah, d'accord. Pour qu'ils évitent d'avoir envie de sauter les infirmières.
Son but, c'était de créer la recette la plus fade et la plus insipide possible pour les patients, car ces céréales devaient avoir un effet anti-aphrodisiaque.
Ah, la tristesse.
Donc, à la fin des années 1890, John Kellogg et son frère Will, ils ont fondé la société Sanitas Food Company. Mm-hmm. Ils ont commencé à commercialiser les cornflakes. Cette alternative au petit déjeuner classique détonne dans le paysage culinaire américain de l'époque, parce que bon, à l'époque, c'était voilà, viande, œufs au petit déj, et les plus pauvres mangeaient du porridge. Donc voilà, c'est flocons de maïs cuits au four, bon.
Coca, tout ça quoi.
Ouais, c'était un peu plus.
Bah, c'était l'Amérique la vraie quoi, tu vois.
C'était un peu plus garni,
de l'alcool,
en tout cas.
De la bière.
Un peu plus joyeux.
Ouais.
Le succès commercial des cornflakes a conduit à une dispute entre les deux frères parce qu'il y en avait un, donc Will, qui avait davantage la fibre commerciale que son frère, et lui voulait ajouter du sucre. Il s'est dit ça marcherait mieux et commercialiser à plus grande échelle. Alors
homéopathie.
John, il n'était pas trop d'accord parce que la nouvelle recette, elle est totalement contraire à l'esprit du régime alimentaire du sanatorium. C'est-à-dire le sucre, non, pas du tout, il ne faut pas. Donc, Will Kellogg a fondé sa propre compagnie où sont commercialisés les cornflakes sucrés.
Okay.
Et donc, c'est cette compagnie qui est en réalité devenue l'Empire Kellogg's.
D'accord. C'est comme Twix droit et Twix gauche, quoi, en fait.
C'est ça. C'est un peu ça. Et bien que John soit resté célèbre pour les cornflakes, deux autres avancées majeures lui ont été attribuées. Il a perfectionné l'extraction du beurre de cacahuète. Alors là, on peut lui dire merci quand même.
Ouais. C'était aussi pour éviter... L'envie, c'est ça ?
Non, ça c'est en fait pour lui il faut pas consommer de viande surtout.
D'accord. Oui, du coup la protéine de
et
la cacahuète.
Et les plats épicés.
Le gras et les protéines du.
Donc pour lui le beurre de cacahuète c'était bon. Il a mis aussi son estampe sur la recette des granolas, mélange de graines et d'oléagineux qui fut imaginé par un concurrent, mais il a quand même perfectionné.
D'accord. Il était balèze.
C'était un vrai nutritionniste quoi.
Ouais, ok. Enfin, un vrai nutritionniste qui pensait que manger des céréales insipides allait retirer toute envie d'avoir des relations sexuelles.
Complètement. Mm-hmm. Et en effet, toutes ces inventions, comme les cornflakes, le beurre de cacahuète ou les granolas, et aussi ça, la promotion du végétarisme, pour lui, c'était une croisade contre l'amour charnel.
Oh mon Dieu. Très bien.
Il devait pas aimer ça, le monsieur, le pauvre.
Peut-être exactement. Qu'il avait personne qui voulait le faire avec lui. Il était jaloux.
Il était peut-être moche.
On a inventé l'alcool pour ça. Qui...
Il déconseillait fortement les rapports sexuels, il condamnait vraiment. Et justement, il ne consomma lui-même jamais sa relation avec son épouse.
Ah bon,
Le couple faisait chambre à part et n'eut jamais d'enfant biologique, même s'il en adopta plusieurs.
Pauvre dame.
Et ah, plus encore que les relations sexuelles, c'est la masturbation que le docteur Kellogg tenait en horreur.
Ok.
Donc, pour défendre ses idées, il a publié divers ouvrages, publiés pour la première fois dans les années 1870. Et donc, par exemple, dans ce livre assez connu, enfin assez connu, le plus connu était L'effet brut, en français, ou Plain Fact. Mm-hmm. Il explique à grand renfort de démonstrations moyennement scientifiques que la masturbation est la cause principale des cancers des ovaires, des infections urinaires, de l'épilepsie et de la folie. Hein, forcément les hystériques, ah oui. tout ça.
Ah mais oui, mais c'est surtout la masturbation féminine en fait.
Non, pas du tout, c'est chez l'homme comme chez la femme. Détends-toi.
Pas parce que t'as pas d'ovaire que voilà.
Oh putain, mais niquez-vous, je vais manger des céréales.
Et pour combattre ce qu'il considérait comme le mal absolu chez l'humain, il préconisait des opérations ou des méthodes qui de nos jours conduiraient n'importe quel patricien à être radié de l'ordre des médecins.
Oh attention, si c'est l'homéopathie, ça passe. Hein.
Ah non, c'est pas vraiment l'homéopathie.
Ok.
En plus du régime alimentaire végétarien strict, il proposait diverses formes de mutilation génitale visant à détourner les jeunes gens des plaisirs de la chair.
Bah oui, couper leur la bite, couper leur...
Le clitoris, etc. Ça,
très bien. Très bien, très bien.
Bon après, c'était un autre contexte historique. Hein.
Oui.
Alors, c'est bizarre parce que chez les catholiques, enfin chez les chrétiens pratiquants, il y a quand même, je veux dire, le mariage, c'est sacré. Donc il faut croiser, multiplier, faire des enfants.
Mais peut-être pas chez les adventistes du septième jour.
Rappelle-toi ce qu'a dit le prêtre.
S'ils se reproduisent pas, il va y plus en avoir beaucoup des adventistes.
Rappelle-toi.
Ils en adoptent.
Rappelle-toi ce qu'a dit le prêtre au mariage de ton frère.
Il faut consommer.
Ah, il a dit on va vous demander des preuves, mais il faut consommer.
Ouais, des preuves. Il y en avait déjà une.
Il y avait déjà une. Ils ont un enfant. Mais bon, voilà. C'était n'importe quoi ce prêtre. Alors, bref, et leurs cornflakes, ils les mangent sans lait, demande Roxy Juju. Ça, c'est
attends, protéines animales.
Bah ouais.
Interdit. Ça donne envie. Apparemment, c'est tout ça. Est aphrodisiaque pour lui.
Voilà. Les pipes aux cornflakes, ça doit, tu dois plus avoir envie d'hyprosine, effectivement.
Oh putain.
Vu comme ça, hein. Et PV, le worm, qui dit franchement, la bonne bouffe, c'est mieux que le cul. Alors je comprends que bouffer de la merde, ça puisse tuer le moral et par extension la libido.
Ah, mais non, parce que en fait, justement, je pense qu'il se trompe ce Kellogg's, parce que bouffer de la merde, enfin bon, de la merde, des trucs insipides, bah t'as envie de te consoler avec autre chose. D'accord. Dans ta vie, si t'as pas la bouffe, t'as au moins le sexe. Mm-hmm. Tu vois.
Je pense que c'était un mauvais
calcul de sa part.
Ah, oui. Non, mais je pense qu'il a un sérieux problème psychologique, ce monsieur.
Ah bon? Ah
ouais. Non, non, mais il devait afficher
en bas de votre écran. Obvious.
Oui, il y avait des chances, oui, qu'il ait vraiment pète à la tête. Honnêtement, oui. Bon, ok. C'est tout pour ton livret sache?
Ah bah c'est déjà pas mal, ouais, hein, je pense que ce beaucoup, monsieur oui. Kellogg's,
j'avais entendu parler de l'histoire du fait de lutter contre la sexualité débordante des gens et tout ça, qu'il avait inventé les Kellogg's, mais tu vois j'avais pas l'histoire complète, donc là maintenant je l'ai. Et je savais pas qu'il y avait deux monsieur en fait.
Eh oui, ils étaient frères.
Eh oui.
Mais elle avait un à peu près normal, enfin, si on
peut appeler ça. Non, un qui avait envie de faire de la thune, c'est tout, hein. Bon, bref, sur ce, on passe à la deuxième partie de la revue de presse. Deuxième partie, on s'approche de la mythobergine, donc on va commencer par parler
La transition est toute trouvée, hein. Je pense que ce couple n'avait pas assez consommé de cornflakes.
Oh merde.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été verbalisés sur une plage de la Grande Motte.
Putain, c'est toujours dans le sud-est, vous êtes vraiment des chauds lapins là-bas.
Complètement. C'était donc à Montpellier, sur l'une des plages les plus prisées. Alors, c'est pas au Cap d'Agde parmi les nudistes, mais pas très très loin. En fait, ils ont été surpris en plein ébat sur la plage du Grand Travers, à la Grande Motte.
D'accord.
C'est un voisin, témoin de la scène, qui a prévenu la police municipale et donc elle s'est déplacée sur place avec les gendarmes. Et donc ils ont arrêté leurs petits ébats et les deux membres ont été verbalisés de 135 euros, hein, puisqu'il faut le rappeler à nouveau, les plages sont interdites.
C'est interdit.
Donc ils habitaient la Grande Motte. Je sais pas trop ce qu'ils avaient. Je pense qu'ils avaient pas d'attestation non plus. Hein.
Bah il y a des chances. Parti baiser à la plage, j'ai pas trouvé la case.
Y a pas la case.
Mais même c'est pas possible de toute façon. Ouais. Y a pas la case.
À partir de demain, ils auraient pu aller baiser sur la plage.
Non, c'est interdit. Ils auront pas besoin d'attestation, mais ils seront quand même verbalisés.
C'est vrai.
Alors je sais pas s'ils ont les 135 euros. Je peut-être.
Je pense que oui. Ça doit être. Franchement, il aurait été au pute, ça aurait coûté moins cher. C'est tout pour toi?
Il était pas obligé, c'était sa meuf, ils auraient pu rester chez eux aussi.
Mais c'est pour ça, je te dis, ça aurait pu coûter moins cher. Si vous voulez faire ça dehors, bon. Parce qu'elle avait une attestation pour le travail, tu vois. Au moins.
Au moins, il y en a une qui sera pas.
Voilà, désolé, je travaille, monsieur. Ah oui, effectivement, ok. Donc,
est-ce que vous avez une attestation de votre employeur? Parce que c'est ce qu'il faut qu'on
c'est
travaille.
C'est ça, son Mac qui fait une attestation.
Mais chacun se fait l'attestation pour l'autre, oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis lui, il sortait pour des besoins de première nécessité, évidemment. C'est bien connu. Allez, moi j'en ai un pas mal. Un mec, franchement, il coche presque toutes les cases des infractions qu'on peut avoir au volant en une fois.
Le bingo.
Ah mais lui je pense qu'on tient un champion du monde. En fait, faut savoir qu'en ce moment en plus, il y a des c'est pas son cas, hein, il a pas eu un problème sur l'autoroute, mais en ce moment, il y a des champions aussi qui nous font des points de vitesse sur l'autoroute vu qu'il y a personne dessus. Ils se disent YOLO, il y a personne, j'y vais. vas-y Jean-Mi, je vais voir à combien elle monte la 205. Et donc ils font des 193 km/h, qui s'est fait choper, un autre à 200 km/h, enfin bref. On s'amuse sur l'autoroute, sauf qu'évidemment on se fait choper quand même, hein, parce que les radars automatiques sont toujours là. Faut pas l'oublier.
Oui, au cas où.
Eux ont pas bougé en fait. Non, mais surtout même la patrouille y est toujours, puisqu'ils surveillent les déplacements entre départements aussi. Enfin bref. Mais alors lui, c'est
j'avoue que je suis rentré du boulot et j'avais un peu zappé moi. Je passe plus par la rocade, mais là je suis allé chercher le pain, donc j'ai fait un petit détour. Je suis passé par la rocade pour rentrer du taf ce matin et j'avais complètement zappé sur la rocade les limitations, tout ça, les radars.
Ah oui, t'étais à 130 toi.
Non.
Ok.
À vous. Non,
ça
veut
bien rouler, c'est sûr.
Donc
tu te...
Ah oui, il y a personne, c'est sûr.
Ça roule bien.
À un moment, j'étais à 210.
Surtout. La semaine, bon.
Hein. J'étais à 210 avec mon Aygo. bon, je me suis dit, c'est bizarre. Je sens que
elle
ça
a commencé à
peu.
Faire du bruit. Je me suis
je sens
dit
que ça vibre un peu les portières, mais ça va. Je me suis dit, c'est bizarre, elle fait un drôle de bruit. Il faudrait que j'aille à la révision. Ouais, forcément. Elle était à fond de 5e. Donc un automobiliste de 49 ans a été contrôlé mercredi 6 mai à Pau. Il cumulait les actes répréhensibles. Donc un automobiliste palois de 49 ans a été vu en train de s'engouffrer dans une voie réservée aux bus, avenue Gambetta à Pau, mercredi 6 mai dans l'après-midi. Écoutez bien, il tenait une canette à la main. Ce qui a poussé évidemment les policiers à le faire souffler. Et, ils ont mesuré 1,06 g dans le sang. Mais il n'y avait pas que ça, évidemment. Donc, conduite en état d'ivresse, circulation sur voie de bus, pas de permis de conduire, pas d'assurance, pas de contrôle technique. Je veux dire, le mec, c'est un champion du monde. Alors évidemment, le 4 septembre, quand il va passer devant le tribunal, il va comparaître donc pour tout ça, en fait. Conduite en état d'ivresse, du faux de permis, assurance, contrôle technique et circulation sur voie de bus. Il manquait plus... Non, évidemment, il n'avait pas sa dérogation. Mais il manquerait plus qu'en plus, il roule à 60 km/h ou 70 au lieu de 50, tu vois.
Ça, et qu'ils sont en train de téléphoner. Ouais,
mais il ne pouvait pas tenir la canette et le volant et le téléphone.
Ah ça, bah, il n'y a pas le volant.
Là, c'était compliqué, en fait. Là, c'était compliqué. Il y en a quand même un qui s'est fait choper sur la route alors qu'il était en dehors de l'habitacle de sa voiture par la fenêtre. Il était assis sur le bord de sa voiture. Et il utilisait une batte de baseball pour appuyer sur l'accélérateur. Je vous jure, c'est véridique, vous pouvez le chercher, c'est arrivé je crois à Orthès ou un truc comme ça. Parce que les gens s'amusent, ils s'ennuient à cause du confinement. Je vous jure que c'est vrai. J'ai failli faire un top des mecs les plus débiles pendant le confinement qui en profitent parce qu'il y a plein de flics sur la route. Et ben, lui, il est pas mal aussi. Un champion.
Il roulait plein pot.
Il roulait assis au bord, quoi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Avec une batte de baseball, il appuyait sur la pédale d'accélérateur. Alors sans doute la même aussi pour appuyer sur le frein, mais ça devait être un poil plus compliqué. Le mec s'amuse, écoute, c'est comme ça. Chagara, tu veux nous parler de cuisine ou pas?
Oui, un peu de cuisine, un peu de restaurant. Alors les restaurants ne réouvrent pas chez nous, mais en Suède, nous avons le plus petit restaurant du monde qui va ouvrir. De manière assez éphémère puisqu'il refermera, donc il ouvre ces jours-là et il se refermera en août, donc c'est pour pas très très longtemps et il va le servir qu'une seule personne
par jour
et oui, c'est vraiment tu manges tout seul. Après je pense qu'ils peuvent prendre une réservation suivante, mais quand la personne a terminé, il n'y a qu'une table, qu'une chaise.
Ah,
voilà, c'est
pas mal.
Donc le restaurant est baptisé Board for N, table pour un en français. L'établissement propose à son client de l'installer dans une prairie.
Bien.
Donc la table est dressée dans l'herbe, elle est reliée à la cuisine par une corde le long de laquelle coulisse un panier.
Ok.
Ouais.
Les plats et les boissons parviennent au client par l'intermédiaire de ce petit dispositif. Et donc c'est un menu en 3 services. Le couple de Suédois qui a ouvert ce restaurant s'est inspiré des voyages du couple. L'entrée à base d'oseille, de caviar, d'algues et d'une galette de pommes de terre typiquement suédoise est suivie d'un plat principal composé de poudre de salsifis, de croquettes de maïs et d'une purée de carottes au gingembre.
Ça a l'air très végétarien tout ça.
Oui, je pense qu'ils ont été voir Monsieur Kellogg. Vient ensuite le dessert, une glace au babeurre agrémentée de myrtilles.
Mais à quel moment c'est rentable?
Oh, c'était le rêve. Et ils ont
c'est pour la distanciation sociale, c'est pour ça.
Exactement. Là, ils sont sûrs que le gars en plein milieu de la prairie, il va contaminer personne.
Putain.
Alors on pourrait croire que ce truc un peu farfelu, moi je me suis dit mon dieu mais ça c'est un truc complètement fou, ça doit coûter une fortune, bah justement déjà pour rentabiliser le truc et puis parce que comme ils font parler d'eux, ça doit être un truc un peu de bobo tout ça. Et en fait il n'y a pas de prix fixe, à la fin de son repas le client décide de lui-même du montant qu'il souhaite payer.
Ah oui donc c'est vraiment pas rentable quoi.
Mais ils font pas ouais. Ça pour
désolé
l'argent,
c'était pas bon.
Ils n'auraient pas fait ça.
Oui bah ceux qui font pas ça pour l'argent ils sont cons.
Et donc Linda, la dame du qui a ouvert le restaurant, dit que nous acceptons tout le monde, peu importe la situation financière.
Mais si tu arrives avec une Lamborghini sur le parking, tu pars pas avec moins de 1000 euros pour le repas, quoi.
Bah ça, hein. Et donc ils insistent sur l'importance de l'expérience d'isolement vécue par leurs visiteurs. Et donc ils ne feront aucune exception à la règle de la table pour une personne et qu'aucun spectateur ne sera toléré. Et ouais. En fait, je pense qu'ils ont envie de démocratiser le fait de manger seul. Elle dit « J'espère qu'un jour, dîner seul soit socialement acceptable. »
Imagine le mec, il y a un serpent qui passe par là, il se fait mordre, il meurt sur la table, parce qu'il est au milieu de la prairie, personne ne l'a vu. Putain, et il ils ont envoyé le temps à manger.
Oui, il mange normal. Un verre plat, là.
De ouais, un verre plat. Ou pire que ça, il est allergique à un des aliments et il tombe... pendant le repas, tu sais, le truc vraiment con. En plus, t'es au milieu de la prairie.
C'est mal vu, dîner
tu te fais piquer par un frelon bah, asiatique dans le cou. Mais...
Si les gens arrêtaient de penser assez aux gens qui les entourent, il y aurait moins de problèmes.
Ah bah, la société ne serait pas comme on la connaît, ça c'est clair.
Non, ça c'est sûr. Mais t'imagines un frelon qui lui pique dans le cou, le mec il meurt, ou un truc du genre. C'est au milieu de la prairie.
Ou un verre asiatique qui lui monte à la cheville.
Ouais, c'est ça, ouais. Il tombe dans son assiette, il dit c'est quoi ce truc? Et hop, surprise. Non, effectivement, c'est original, mais...
C'est très original, oui.
Ouais, c'est même un peu chelou, on peut le dire.
C'est Prozini une expérience.
Prozini, c'est une performance artistique, ouais, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, fait. C'est ce que j'allais dire, ouais.
Sur TripAdvisor, pas beaucoup de notes, hein. Par contre, ambiance pas terrible. La nuit fait un peu froid, puis quand il pleut, on mange de la soupe, en fait. Hein.
Ouais, au moins, c'est silencieux.
J'ai beau appeler le serveur, il vient pas.
Ouais, je comprends pas, bon. C'est vraiment... ok.
On est obligé de se servir soi-même. Parce que bon, depuis le panier jusqu'à l'assiette, t'es obligé de le faire toi-même. Quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Du coup, Chagara, dernière news, tu vas nous parler aussi de faune et de flore.
Je pense que cette faune-là est un peu plus dangereuse que ton verre plat.
Ah merde.
Il s'agit d'un alligator.
Ah, méfie-toi, je pense que le verre plat pourrait buter un alligator.
Peut-être. Peut-être que plusieurs verres plats pourraient en venir à bout. Donc c'est un alligator qui vivait... en Caroline du Sud, aux États-Unis. Et donc, une styliste ongulaire se rend chez sa cliente qui possède un alligator.
Une styliste ongulaire.
Ouais.
Bah oui.
Bah, c'est la personne qui te fait les ongles, quoi.
Ah oui, mais non, mais styliste ongulaire.
Bah,
quoi,
c'est
une manucure.
Comme ça s'appelle. Une manucure, c'est pas le nom de la personne qui le fait.
Ah
en
non,
fait.
Mais comment, non, elle s'appelle comment
un manucurier.
voilà, c'est ça, une manucurie si tu veux. Mais...
Non, mais styliste ongulaire, c'est-à-dire qu'en gros, elle te fait des petits dessins et tout.
Mais c'est pour les alligators.
Fait juste les ongles, comme une maquilleuse. Okay, mais d'ongles. Une maquilleuse d'ongles, si tu veux.
Ok.
Voilà.
Je sais pas, ça me dépasse, mais ok.
Ouais, très bien. Après avoir terminé sa prestation, la styliste, donc, âgée de 58 ans, elle a vu le reptile en train de se prélasser dans un étang au moment où elle s'en allait. Elle s'est approchée de l'animal pour faire un selfie.
Oh, mais quel coup.
Oui.
Voilà. Et donc le couple qui est propriétaire a tenté de la dissuader. Ils lui ont dit de s'éloigner quoi.
Vous devriez pas faire ça.
Hein. Ouais, évitez.
C'est pas un petit chat.
Et ils avaient beau lui crier que l'alligator était extrêmement dangereux et qu'il avait quand même récemment tué une biche.
Oh putain.
Mais bon. Enfin,
ouais, mais il avait mangé.
La nature, hein.
Il est plus fin.
Ouais, voilà. D'ailleurs, elle c'est pas ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit je ne ressemble pas à une biche.
Bah oui.
Ils sont fous en fait.
Mais comme elle avait été d'abord chez l'esthéticienne et la maquilleuse, elle avait un regard de biche.
Non mais c'est elle l'esthéticienne.
Oui mais.
Donc elle est rentrée dans l'étang. Et elle avait quand même de l'eau jusqu'à la taille. Hein. Elle est rentrée dans l'eau jusqu'à la taille.
Ah mais elle est vraiment conne en plus.
Ah non mais. Attends.
C'est la merde.
Mais c'est comme si. Non mais ok.
Mais d'accord, vous allez quand même voir la punchline qu'elle a sortie quand même.
Ah.
L'alligator lui a bondi
elle
dessus.
Pas une biche mais à une bitch.
C'est ça.
Donc à ce moment-là, l'alligator lui saute dessus. tu t'imagines un peu la panique dans laquelle tu es à ce moment-là. Enfin, oui. Déjà, tu dis, ok, j'ai fait une connerie. Tu te dis, il faut que je survive, quoi. Et je sais pas, moi, tu hurles tout ce que tu peux. Enfin, il se passe plein de choses dans ta tête. Les propriétaires de l'animal lui lancent une corde pour qu'elle puisse sortir de l'eau. Donc, je pense que ça dure quand même un certain temps. Enfin, ça dure pas une demi-seconde. Ils ont quand même le temps d'aller voilà, de trouver une corde et de lui envoyer parce qu'elle est en panique. L'alligator a fait mine de l'attaquer, il n'est pas très loin d'elle et tout. Et au moment où du coup, bah, elle est sur le point de s'en sortir, elle dit « J'imagine que je ne le referai plus. » J'ai eu bien peur, hein, j'imagine que je ne le referai plus. Oui. Et bien là, l'alligator, il a surgi une deuxième fois et il l'a dévoré.
Ah mais ça, tu le referas plus.
Donc elle a plus refait, elle a raison.
Elle avait raison.
Ah non, mais elle avait raison, exactement. Mais c'est incroyable. Donc c'est juste qu'il dit à 58 ans, on ressemble plus à une biche. Mais en fait, est-ce que c'est un rapport avec, du coup, le taureau et la biche qui vont ensemble? Ou est-ce que c'est le cheval?
Bah là, c'était l'alligator avec la biche.
Mais si ça avait été une éléphante, est-ce que l'alligator aurait attaqué l'éléphante? On sait pas, tu vois. Du coup, si on est monté comme un alligator, on peut s'en prendre à une biche. C'est ça la morale de l'histoire. Ou pas du tout.
Ouais, on va conclure ça.
Ok, très bien. Sur ce, justement, eh bien, on en profite. C'est une belle introduction, si je puis dire, à la Minute Aubergine. Arrêtez, ce soir, c'est sérieux. Bon, alors j'ai cru comprendre que c'était très sérieux ce soir, Chagrin.
Ah non, c'est pas du tout très sérieux.
Ah mais non, mais c'est ce que tu m'as dit, ouais, ça va pas être comme la dernière fois.
Ah non, c'est juste que ça va pas être aussi, comment dire, cru.
Ah, le crudivore, vous pouvez arrêter d'écouter tout de suite.
Ah, vite.
Je vous le dis direct. Hein.
Bon. C'est plutôt cuit. Non, c'est okay. Que, bah, contrairement à la sodomie, où là, on est obligé d'être en moins de 18, tout ça, là, c'est plus dans l'érotisme.
Ah.
Voilà.
Ah, mais ça, hein, ça,
c'est les films moins de 16.
Ah, merde, mais on peut mettre que moins de 18 sur Twitch. Merde.
Ça okay. Va, c'est un peu plus léger.
Mais déjà, t'as dit le mot sodomie, je pense que c'est bon, on est moins de
18. Eh oui, mais ça, c'était le fois d'avant, donc si j'avais pas eu besoin de me justifier, je pense qu'il y a...
Okay,
ah non,
donc...
Je pense qu'il n'y a pas de terme inapproprié.
Donc ce soir, on ne parle pas de sodomie, trois fois qu'on le dit déjà, alors vas-y.
Il y avait un besoin de placer trois
Je sais pas, c'est peut-être comme Candyman, il faut dire plusieurs fois son nom et hop, il apparaît.
Je tente, ok,
je
très
sais
bien.
Pas, je... Ça, c'est alors... comme fellation, je sais pas. Bref.
Ça marche avec Cunilingus.
Peut-être. Peut-être que ça a tenté. Je ne sais pas.
On est en train de faire des invocations en fait.
C'est ça. Roxy Juju, tu devrais essayer apparemment. T'as des soucis en ce moment. Prononce trois fois le mot de ce que tu veux. Vas-y.
Alors, le sujet de ce soir m'est inspiré par Bip to Bip.
Ah.
Sur Slack. Hein, on vous le rappelle, okay. Hein, pour venir nous rejoindre sur Slack et discuter avec nous et peut-être m'inspirer pour la Minute Aubergine.
Donner de l'argent.
Ça, c'était, hein, ça, c'était cru.
Ah merde.
D'argent, donner de l'argent, donner de l'argent.
Sur Tipeee.
Voilà. Merde, ça marche pas.
Ouais, c'est ça, on va le dire trois fois. Il s'agit du sujet de la fessée.
Ok, très bien.
Apparemment, ça te fait beaucoup.
Ouais. Ah bah oui, ça me fait rire. Bah,
la fessée pendant la sodomie, c'est bien, ouais.
Allez hop, une quatrième fois tant qu'on y est. Voilà, voilà. Donc, ouais, pour nous donner de l'argent, il y a plusieurs moyens, comme dit Mister SP dans la chatroom, hein, sur Tipeee, sur Twitch, en devenant sub à la chaîne, même avec votre Twitch Prime si vous le souhaitez, évidemment. Comme ça, c'est Amazon qui paye. Alors, vas-y.
Par la poste si vous avez du liquide.
Voilà, c'est ça. Donc, vas-y, je
alors,
te laisse.
L'histoire de la fessée. Donc, on parle de la fessée érotique, hein, pas de la fessée aux enfants.
C'est interdit.
Celle-ci est interdite. Elle remonte apparemment aussi loin que l'érotisme lui-même, donc vraiment au tout début. Mmh. Donc on trouve ainsi des déluges culottés relatés dans les premières œuvres de la littérature coquine, comme par exemple l'art d'aimer d'Ovide en l'an 1.
Ouf, oui, effectivement.
Et donc lui, il plébiscitait une posture plus ou moins adaptée pour la fessée.
Okay.
Et pour profiter des courbes des femmes. Donc il dit la
même
posture.
La fessée, c'est pour les femmes, pas pour les hommes, donc.
Bah, selon lui. Okay. La même posture ne convient pas à toutes. Que mmh. celle qui brille par les attraits du visage s'étende sur le dos, que celle qui s'enorgueillit de sa croupe élégante en offre à nos yeux toutes les richesses.
En gros, si t'es, si t'es moche comme un cul, il vaut mieux que tu montes ton cul, en fait.
C'est ça.
En gros, pour résumer, c'était à peu près ça.
Voilà, c'est ça. Retourne-toi, t'es trop moche.
C'est ça. Ok.
Il est aussi dit que les fessées ont des vertus curatives. Dès l'Antiquité, les médecins ont démontré ces vertus-là. C'est le cas de Asclépiade, médecin mm-hmm. grec, qui fouettait les maniaques, et Sénèque, qui soignait la fièvre par le fouet.
Oui, oui, effectivement. Pour les malades du Covid-19, on aurait dû faire ça, en fait. Équiper les médecins de fouets. Vous avez de la fièvre ? Tournez-vous.
Tournez-vous. Détroquez-vous. De la même manière, au Moyen-Âge...
C'est ça. C'est ça.
On va tester, on va faire un double aveugle. Là.
Avec ou sans Covid. Après, il y a différents ustensiles. De la même manière, au Moyen-Âge, la flagellation constituait le remède à la mélancolie érotique et au délire en général.
Ah, mais ça, c'est pour Oxyjuju, je vous le dis. La mélancolie.
C'est quoi la mélancolie érotique ?
Bah, je sais pas. C'est quand apparemment tu es...
Tu es mélancolique du sexe.
Sexe, c'est ça.
Et Rabelais lui-même prescrivait la flagellation des fesses au chardon piquant.
Carrément.
Ah ouais,
toujours plus.
On rigole pas. Et dans,
parce
d'ailleurs,
que c'est
dans
pas
le...
les siennes de fesses.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Est-ce qu'il l'a testé ?
Qu'il aimait ça, hein ?
Je pense pas.
Le dictionnaire universel Larousse du 19e indiquait que la flagellation modifie avantageusement l'incontinence d'urine, la paralysie de la vessie, la constipation, l'impuissance, la frigidité et les paraplégies.
Carrément.
Voilà. Les paraplégies.
Donc, écoutez, tournez-vous, je vous colle une grande. Je vous fais une petite session de fessée et après vous pouvez ranger le fauteuil roulant. Il n'y a pas de souci.
C'est ça.
Ah, mais c'est merveilleux. Peut-être ça pour claquer le cul des gens vulnérables. Hein. Je te le fais pas dire. Ah.
Bon, bien sûr, Freud va nous expliquer que la fessée remonte à notre enfance, hein, comme à peu près tout chez Freud.
Ouais.
Il y a plusieurs psychanalystes qui sont pas trop de cet avis et qui partent du principe que c'est réservé uniquement à la partie adulte de notre sexualité. Mmh. Alors pour l'histoire, après une petite accalmie dans l'histoire, les déculottées érotisantes, c'est joliment dit, non, ont fait un retour en force dans les années 30.
Ok.
On les voit sur des cartes postales, qui sont quand même assez sexistes, qui mettent en scène des pin-up dans des postures assez équivoques, hein, forcément pour la fessée, voilà, elles montrent leurs fesses. Le libertinage qui s'empare de l'époque fait de la fessée l'une des pratiques sexuelles les plus courantes, et apparemment c'était surtout pour oublier la Première Guerre.
Okay.
Alors, je sais pas si, à mon avis, c'est un peu une explication capillotractée. Cette histoire de violence pour oublier la violence, ils sont partis quand même assez loin dans les explications.
Ouais. C'est ça. Voilà. C'était surtout les mecs qui revenaient de la guerre. Je pense
ils
trop à la guerre.
Ils sont pris une fessée, du coup,
mets-toi à quatre pattes.
Voilà.
Et bientôt, on va nous dire que ça guérit le mal de tête, quoi.
Ah bah oui,
tu penses
pas.
Plus au mal
bah oui, parce qu'après t'as mal au cul.
Voilà.
Après t'as tellement mal à l'œil.
C'est comme dans Les Bronzés, ils vont disquer.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh putain.
Et pour revenir un petit peu à notre époque, selon une enquête IFOP qui date de 2012, 24%, alors c'est uniquement les Françaises qu'on a interrogées, on n'a pas le pourcentage pour les Français. 24% des Françaises affirment avoir déjà reçu une fessée de leur partenaire et seulement 8% en 85.
Ah oui.
Voilà, donc ça se démocratise.
Oui, c'est juste qu'ils le disaient pas en 85.
Ouais, je sais pas.
Peut-être
ouais,
qu'elle nous a raison.
Je pense que t'as raison.
Attends, c'est passé par la tête de tous les mecs de mettre une fessée au cul de leur meuf, non?
Bah attendez,
ce que toi.
Mais peut-être que ça les fait moi, que leur passer par la tête.
C'est ça, ça passe.
Par la tête, c'est pas.
Ah bah moi, ça m'est pas passé que par la tête. Hein.
Ah bah ça, évidemment. Évidemment.
Il y a aucune honte. C'est quoi le problème de
mettre j'ai pas dit qu'il y avait une honte, mais c'est la façon dont tu le dis. C'est bah attendez, tous les mecs. Tous les mecs, évidemment, ça leur est passé par la tête de mettre une fessée. Eh ben t'es pas sûr. Pense à Kellogg's. Je pense que lui, ça lui est pas passé par la tête.
Bah non, parce qu'ils étaient anorexiques, du coup, tu tapes des os.
Je pense qu'il était refoulé, en fait, Kellogg's.
Oui, c'est possible.
Au contraire, il devait être plein de...
Mais c'est ça. Et il imaginait que le monde était comme ça. Un peu comme Rusher qui imagine que le monde colle des fessées à tout le monde.
Ah oui.
Je propose qu'on lance un sondage dans Studio Renegade. On avait bien lancé un sondage...
C'est vrai.
Attends, t'avais lancé quoi comme sondage?
Sur les insertions dans la nuque.
Voilà, le doigt dans les fesses. Ah.
Donc, ok. Si tu veux, on peut faire un sondage.
Sans compter que 4, donc on revient à notre sondage, enfin notre sondage, celui-là IFOP. Fait, voilà, IFOP, 4 d'entre elles sur 10 se disent disposées à se faire claquer le séant. Mm-hmm. Ou à faire l'inverse.
À claquer le séant.
Calquer celui de leur partenaire.
Mm-hmm. Bah oui.
Toutes les meufs ont envie de taper des fesses aussi, ils croyaient pas. Hein.
Ah, ok.
Ça a passé dans la tête à toutes. Oui. Et pas que dans la tête. J'ai essayé d'imiter.
On se met des claques mutuelles avec Aki. Hein.
Tant d'accord, que c'est consenti, c'est le principal.
Dans la gueule.
Dans la gueule.
Dans ta gueule. Non, on a dit fessé, donc sur les fesses.
Bah après, vous faites ce que vous voulez. Oui. Et on pense que ce chiffre pourrait quand même être plus important aujourd'hui avec forcément le best-seller...
Fifty Shades of Grey.
Exactement.
Ah, évidemment.
Et La Trahie Irrépressible de Christian Grey pour La Déculottée et Les Bruits de Claque.
Eh oui, la cravache.
J'aime que ça claque. Tout ça.
Eh oui.
Et donc, c'était une rubrique très courte sur la fessée.
Non, mais c'est bon.
Mais je pense que ce sera une introduction...
Ah non, ah. Attention.
Au sadomasochisme.
Attention à ce que tu vas dire.
Pourquoi?
Non, vas-y, ça serait une introduction au sadomasochisme, oui. Tu vas dire. Ah là là. On va faire une rubrique sur le sadomasochisme.
Ça va pas être une introduction à la sodomie, j'en ai déjà parlé de la sodomie.
Oui, c'est vrai. Bon, ben écoute, merci à toi pour ces remarques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je vais pas insister plus que ça. Ouais, voilà, pas de commentaires, hein, évidemment. Bon, eh bien, c'est déjà la fin de l'émission. Hein, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci la chatroom qui a participé encore ce soir. Merci à ceux qui nous téléchargent en podcast. N'hésitez pas à lâcher vos étoiles sur iTunes, à nous écouter aussi sur Spotify et tout ça, à laisser des commentaires. Pour nous soutenir, plusieurs moyens, vous allez sur studiorenegade.fr et vous retrouvez toutes les informations. Et évidemment, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc @stdrenegade pour avoir le compte Twitter du Studio Renegade, par exemple. Et vous avez tout ça sur le site. Donc merci l'équipe, merci Dr. Fondamieu, merci Rusher, merci Aki. J'entends claquer déjà. Attendez, tendez l'oreille. Ah ouais, effectivement, ça claque. Rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais celle d'après. D'ici là, portez-vous bien et faites attention, soyez prudents. Dehors, il y a le virus.
Bye bye.
Salut.